Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour le podcast hebdomadaire. Aujourd'hui épisode 476 et j'accueille dans le studio numéro 1 de Gameblog Johnny One.
Bonjour.
Thomas.
Bonsoir, Vuller.
Et Tiger Suplex.
Salut,
Julien Inverno, ça dépend. En ce moment, des fois je t'appelle Julien, je sais pas pourquoi.
C'est mon prénom de l'état civil.
Ouais, ouais, mais
c'est pas habituel, en fait.
Quoi.
C'est vrai.
Ça fait bizarre. Ouais. Bienvenue à tous les gars et bienvenue à vous tous qui nous regardez puisqu'on enregistre ce podcast en live, une fois n'est pas coutume, un peu tard le lundi soir. On espère que vous êtes nombreux et que vous êtes heureux d'être avec nous. Vous pouvez utiliser Discord, cette petite application qui vous permet de nous envoyer des petits messages et nous, de rebondir dessus lorsque vous les envoyez. Essayez d'être un peu raccord avec tout ce qu'on raconte, ça nous permet de les sortir un peu plus facilement.
J'aime bien le un peu.
Voilà, et donc j'en profite pour saluer Donny Jeep, Ziff80, Eddie Vedder, Michael Newton, Hyde. Ah, il y a Michael Newton qui est là, dit donc, salut Michael. Eddie Vedder, Léa Keane, Hyde, Yaek.
Et Kenny qui avait prévu le retard de Johnny One qui n'a pas eu lieu.
Exactement. Voilà. On est en retard un petit peu, mais c'est pas à cause de toi, Johnny One. Pour une fois, voilà. Voilà, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux majoritairement, de Super Smash Bros Ultimate, parce que toi, Tiger, t'as pu aller y jouer longuement chez Nintendo. Et nous allons parler également de Darksiders 3, puisqu'on vient de publier le test et que tu t'en es chargé, Johnny One. Et on sait que Darksiders, c'est un jeu qui avait beaucoup plu à une certaine frange de joueurs.
C'est un gros morceau. Hein.
Et que ce troisième épisode était très attendu, c'était un peu une arlésienne. Oui. Il a failli ne jamais exister, mais tu vas nous raconter tout ça et tu vas nous dire ce que tu as pensé du jeu. Et bien sûr, on s'intéressera également aux différentes rubriques habituelles, le win, le fail, les 10 ans sur Gameblog, l'anniversaire. Et puis on aura même un hors-jeu signé Johnny One en fin d'émission.
Donc.
Voilà, alors on avait un petit message. Tiens, je vais commencer par ça. Avant d'engager sur les wins et les fails, qui nous avait envoyé ça, Eddie Vedder, qui nous disait ne pas oublier de nous révéler ce qu'a fait Angèle à Tiger. Voilà, parce que la semaine dernière, il y a eu un petit coucou que tu as entendu, Tiger. Angèle qui disait bonjour à tous, surtout à Tiger, ou quelque chose comme ça.
Bien sûr.
Alors, c'est vrai qu'on s'était dit, tiens, ça ferait un fil rouge, on racontera petit à petit aux gens. Bon, on va le raconter dès maintenant.
C'est des podcasts épisodiques maintenant. Oui, c'est ça.
Il faudra penser à un truc, un cliffhanger à la fin de celui-là pour le suivant. Donc, réfléchissez tous peut-être à
un seul coup de préférence.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Angèle?
Je te propose de toi-même le raconter parce que t'es l'instigateur en fait de cette histoire.
Vrai.
Tout part de toi.
Ouais, mais alors, le mal n'est pas parti de moi. Moi, j'ai voulu faire le bien à la base. C'est vrai qu'il y a Tetris Effect qui a eu un certain.
Un effet, justement.
Un certain effet sur la rédaction. Tout le monde était content d'y jouer. Et ça tombe bien, on avait quelques codes à disposition.
Enfin tout le monde.
Presque tout le monde. Et il se trouve qu'il me restait un petit code et que je savais pas à qui le filer, Tiger ou Angèle, parce que tous les deux.
Ça c'est pour le prochain épisode. Voilà,
et moi, Tetris.
Non, parce que c'est tous les deux des dingues de musique et d'expérience de Mizuguchi, etc. Donc je me suis dit merde, je sais pas à qui le filer, j'ai pas envie d'arbitrer moi-même. Je me suis débarrassé de la patate chaude. J'ai fait un petit mail à Tiger et à Angèle.
Ouais.
Et puis je vous ai envoyé le code à tous les deux. Puis je vous ai dit voilà, maintenant, battez-vous ou faites-vous des amabilités.
Voilà.
Voilà.
Et moi, j'ai répondu à ton mail, parce que je trouvais ça très sympa de vouloir nous partager un code avec nous. J'ai juste répondu merci. Voilà, voilà, avec un petit smiley. Et suite à ce merci.
Voilà, Angèle est partie furibard.
Angèle a répondu en me traitant de saloperie de catalan, que j'étais un crevard, que j'avais déjà pris le jeu et tout.
Parce qu'il avait compris le merci comme étant genre j'ai pris le code.
Oui, c'est
merci.
Ça, c'est juste moi, j'ai vu passer le mail, j'étais en train de faire autre chose. Voilà, merci, petit smiley. Donc, auquel je réponds à ce message d'Angèle, je réponds avec un petit smiley en pleurs, je disais juste merci. Donc, du coup, Angèle. Voilà, et un peu
qui se trouve con
un petit peu commence à dire oui de toute façon prends-le si tu veux, je pourrais pas y jouer avec mon chat ou je sais plus quoi. De toute façon avec Angèle il est toujours question d'un chat à un moment donné,
De son chat.
Et vu la tournure de la situation, je me permets une petite note comique, quoi, en disant tout marche comme prévu.
Avec un petit smiley de personnage avec des cornes.
Je me moque un petit peu, quoi. Sauf que là, je savais pas ce que j'avais déclenché. Et dans le mail qui suit, on a reçu donc des captures d'écran depuis son téléphone. En fait, Angèle avait accédé au PlayStation Store.
Il avait rentré le code.
Et
merci de votre achat.
Voilà, et t'avais le petit message qui indiquait que quand il rentre rentrerait chez lui et qu'il allumerait la console, le téléchargement démarrerait. Voilà. Et avec... il expliquait, il a précisé.
Ça t'apprendra.
Ça t'apprendra. Et en plus, j'avais même pas. Enfin, dans le mail d'avant, il disait qu'il avait même pas tellement envie d'y jouer, etc. avec son chat, il pouvait pas, etc. Donc voilà, c'est par.
Ça s'appelle le pouvoir de nuisance.
Voilà.
Voilà ce qui explique, voilà, pour ceux qui le demandaient. Donc, hein, c'était Eddie Vedder qui demandait ça tout à l'heure. Voilà, c'était ça, la saloperie que Angèle a fait à Tiger la semaine dernière. Pas très sympa. Hein.
Bah, j'ai toujours pas joué à Tetris du coup, mais
bah, il faut que tu joues à Tetris.
Mais c'est toujours ça avec Angel, c'est que surtout c'est drôle, c'est plus drôle que méchant, donc c'est pour ça que ça passe.
Oui, c'est vrai que c'est à la fois méchant et drôle. Bravo, bravo Angel. ok, alors très bien. Bon, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet désormais et on va s'intéresser donc au win et au fail de la semaine. Alors, qu'est-ce qui a winné cette semaine? Et là, je me tourne justement vers toi, Tiger. Tu vas me parler d'espace infini et au-delà.
Ouais, tout à fait. On va parler de Star Citizen. Alors, pour resituer un petit peu, Star Citizen, c'est une simulation spatiale dont on parle maintenant depuis plusieurs années parce qu'elle est en alpha depuis un moment et surtout parce qu'elle a été rendue possible grâce à un financement participatif sur Kickstarter.
L'un des plus anciens et l'un des plus gros.
Et
à la
voilà.
Fois.
Et il a pris des proportions énormes, ce qui fait que d'ailleurs il y a quelques railleries des fois à propos de Star Citizen en disant que voilà, avec un tel budget, ils savent pas trop où ils vont. Mais il y a aussi les fidèles, ceux qui ont investi, hein, j'imagine. Qui croient en cette simulation, qui est donc en phase alpha 3.3. Donc, juste pour vous dire rapidement, il y a par exemple une nouvelle planète qui aura différents biomes. Donc, les biomes, vous savez, c'est la toundra, le désert, la forêt, etc. Alors que jusque-là, il n'y avait que des lunes. Et puis, on aura aussi maintenant la possibilité de scanner son visage pour donner les expressions à son avatar qu'on aura créé de toutes pièces, qui visiblement, c'est un résultat assez satisfaisant. Et puis, il y a plein d'autres features avec cet alpha 3.
Et puis, des acteurs qui ont été intégrés au
Gillian
casting.
Anderson, Mark Hamill, enfin voilà, il y a plein d'acteurs connus et reconnus. Et le win, parce qu'on est passé à un budget phénoménal là pour Star Citizen, on vient d'atteindre les 200 millions de dollars.
C'est juste énorme.
Alors, pour se donner une idée des proportions, c'était le budget de Titanic, le film de James Cameron. Enfin, moi, ça me fait plutôt penser que le budget de Titanic était colossal, en fait, c'est ça plutôt qui m'impressionne. C'est plus dans l'autre sens,
mais bon, il est resté très longtemps le plus gros budget cinématographique,
hein, avec en plus 200 millions d'époque à convertir.
Exactement.
Avec l'inflation qui doivent peser encore plus lourd
encore
aujourd'hui,
plus lourd aujourd'hui, ouais.
Mais pour quelque chose de plus proche de nous, GTA 5 par exemple, c'est 265 millions de dollars en budget total. Donc là, on voit que Star Citizen arrive au
niveau des jeux les plus chers qui soient, quoi.
Ouais, à des niveaux phénoménaux, mais parce que
mais surtout que c'est un financement participatif, c'est
exactement.
Ça qui est dingue, quoi. C'est pas les ventes des jeux là, c'est même plus que les précommandes, quoi. C'est les gens qui ont investi dans le jeu.
Tu te rends compte le nombre de Shenmue qu'on aurait pu faire avec 200 millions d'euros?
Il y aurait pu avoir des animations faciales et tout.
Et Mark Hamill dans Shenmue 3.
Mark Hamill dans Shenmue 3, pourquoi pas.
Mais après, c'est sûr que c'est un budget qui est colossal, mais on peut le voir, hein, dans les images et à travers. Je vous ai pas fait le détail de toutes les nouveautés de l'Alpha 3.3,
non, mais
il y a un soin du détail et voilà, ça se veut complètement fou.
Non, ce qui est génial, c'est le côté simulation de vie aussi, c'est-à-dire que tu pourras jouer dans ce jeu absolument n'importe qui, quoi. Tu pourras jouer un commerçant, un pirate, un justicier. Tu pourras faire exactement ce que tu veux. Il y aura un système économique. Les développeurs auront des rôles gouvernementaux, etc. Enfin,
sachant que pour ceux qui voient ça de manière un peu floue encore, il y aura aussi un mode solo qui s'appelle Squadron 42,
ouais.
Dont on n'a pas énormément de détails pour l'instant. Enfin, j'imagine que ceux qui sont vraiment passionnés du jeu.
En fait, il y a un truc
vachement
intéressant,
mais...
c'est que tu pourras faire ce mode solo. C'est ce que m'a raconté Camille tout à l'heure. Mm-hmm. Et tu vas faire du level, etc., parce que ça fonctionne un peu comme un RPG, FPS, etc. Et quand tu auras fini le jeu, tu gagneras ta citoyenneté pour faire partie de cet univers.
D'accord,
alors okay. Que si tu commences directement par le mode multijoueur, il faudra gagner ta citoyenneté de manière beaucoup plus longue et complexe. Alors que là, voilà, ça te fait une première entrée dans l'univers en solo. Et toute ton expérience, tous tes objets, tes vaisseaux, enfin ton vaisseau, etc., mm-hmm. Tu pourras le garder pour commencer ta partie multijoueur en tant que citoyen. De ce groupement de je ne sais combien de planètes. Enfin bref, c'est un projet absolument gigantesque.
Sur le papier, c'est une très bonne idée.
Ouais.
Un projet colossal, ouais, qui prend forme. Voilà, comme quoi, il y a peut-être 3 ans en arrière, on aurait pu se dire où est-ce que ça va aller. Et puis finalement, on le voit concrètement. On voit aussi des phases de FPS. Enfin, nous, on les voit en tout cas. Voilà, ça se développe, ça prend de l'ampleur. Et puis, moi, je trouve que plus ça va, plus on est impatient de voir un résultat final qui sera certainement commercialisé aussi pour ceux qui n'ont pas backé ou quoi. Voilà.
Ça peut être un hyper Mass Effect, quoi.
Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'avec le dernier Mass Effect Andromeda. on sent que c'est très compliqué pour cette saga qui était pourtant majeure sur la génération PS3 360.
Mais ce qui est génial par
rapport
à... Peut-être
que ça va être son remplaçant.
Avec des jeux comme ça, c'est que là, c'est un peu comme dans No Man's Sky. Tu rentres dans ton vaisseau, tu pars, tu vas sur une autre planète, tu te poses, tu sors, tu combats au fusil.
Il y a des trucs complètement dingues. J'ai appris que, par exemple, dans la dernière mise à jour, ils sont décidés sur le fait, sur la manière dont se déplacent les vaisseaux. Les vaisseaux qui sont dans l'espace, en fait, ils se déplacent de manière, assez linéaire, c'est-à-dire que t'as la propulsion qui va propulser ton vaisseau, et pour retourner en arrière, il va falloir se retourner pour repropulser. C'est pas un système, par exemple, comme dans Star Wars, où les vaisseaux ressemblent à des chasseurs, en fait, à des avions. Mais par contre, les scènes sur les planètes devraient se dérouler de cette manière. Donc voilà, toutes ces idées qui montrent qu'il y a vraiment un souci du détail, un vrai aspect simulation.
Avec, on imagine, des gravités différentes dont il faudra tenir compte, etc.
Doute,
donc,
alors, sur le Discord de... Ah pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu, Jay.
Non, tu comparais ça à Mass Effect, je doute qu'on ait tout de même en solo une des enjeux aussi importants que ceux de Mass Effect.
Ah bah ça, on peut, alors,
après le seul truc qui m'évoque de plus en plus Mass Effect, c'est justement toutes ces... Je parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait scanner son visage.
Ouais, ça va être très RP, tu vois.
Il le pose, voilà. Moi je trouve qu'il pousse vraiment le jeu dans le côté roleplay de plus en plus. Donc on peut imaginer peut-être quand même une histoire avec du corps, ouais, avec des enjeux, et puis avec tous ces acteurs formidables. Là, vraiment, la liste, elle est magnifique.
J'ai vu Mark Strong tout à l'heure. Ouais. Semblait le voir.
Ouais.
Alors sur le Discord de la rédac, y a Nathan qui nous fait un bisou déjà. Bisou Nathan.
Bisous à toi.
Et alors y avait Michael Newton qui demandait dernière grande alésienne du jeu vidéo avec Shenmue 3. Vous pensez qu'un jour on aura vraiment une version terminée? Alors a priori oui, un jour viendra. Et il y a d'ailleurs Donny Jeep qui lui répondait: la grande question est: sortira-t-il avant Half-Life 3? c'est un peu résumé, on ne sait pas quand ça va sortir.
C'est plutôt bien parti quand même.
Oui,
et puis en même temps, je trouve que le terme arlésienne est pas...
Parce que
l'arlésienne, c'est celle qu'on ne voit jamais. Alors que là, les gens qu'ils ont investi, ils peuvent jouer, ils peuvent voir.
Le truc,
on peut même faire, tu sais, son vaisseau, là, on peut se le faire imprimer en 3D. C'est génial, quoi.
Non, le truc, c'est que je trouve que... c'est pas vraiment du foutage de gueule, dans le sens où le mec a lancé son projet parti de rien. Quand on voit des jeux comme Red Dead Redemption, etc., ils ont été faits en 6 ans, tu vois. Et lui, ils ont communiqué sur Red Dead seulement un an avant. Là, il communique dessus depuis le départ et il a pas pris les gens pour des gogos. Et il dit voilà, on part là-dedans, vous investissez et moi je vous fais le jeu au fur et à mesure, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des bêtas, enfin des bêtas, non, il y a des alphas, les gens voient les progrès au fur et à mesure et finalement le jeu commence à prendre un petit peu sa consistance, là, j'ai l'impression.
Bah, il prend forme, et finalement, c'est aussi ces nouveaux modèles de financement participatif qui font que finalement, on prend part au développement.
Faut pas leur demander d'avoir
en réel, en fait. Voilà,
ouais, c'est ça, leur demander d'avoir la même communication que les jeux.
Red Dead, on l'a juste attendu, par exemple, ou n'importe quel jeu normal créé par un studio, on l'attend, on n'en voit rien jusqu'au moment où l'entreprise décide de sa communication. Là, on suit en temps réel. Donc, peut-être ça paraît plus long pour les gens, du coup.
En tout cas, voilà, 200 millions dépassés, c'est juste énormissime pour un jeu au budget participatif, c'est très impressionnant. Et on a quelqu'un à la rédac, en l'occurrence Camille, qui suit le jeu d'assez près, qui rejoue régulièrement dès que des nouvelles démos sont proposées, etc.
Et il pourrait être un vrai jeu étape pour ce genre de financement aussi, parce que...
tout le monde ne peut pas imaginer avoir un tel financement.
Mais c'est
en tout
ça,
cas,
et puis il y a des jeux qui ont été financés, qui ont réussi, qui ont satisfait une fanbase, ou voilà. Mais là, on a vraiment un jeu d'une envergure jamais vu, quoi.
Qui veut sortir de sa base de fans, etc.
Exactement.
Voilà pour le win de la semaine, et je me tourne vers toi, Johnny Wen, pour nous parler du fail cette fois. Oh, et ça concerne un petit ourson tout rond.
Ouais, Winu l'ourson.
Qu'est-ce qu'il
vient faire dans le fail? Eh bien, en fait, dans la dernière version de Kingdom Hearts,
Mars 3,
donc, qui vient de publier ses premiers trailers, enfin des trailers, eh bien, on peut voir dans les trailers chinois que Winu l'ourson est censuré. Dans le trailer.
Mazette.
Et alors, en plus, quand on voit la censure, c'est vraiment ridicule, parce qu'en fait, il est juste recouvert d'un halo lumineux. Donc, c'est comme s'il y avait une grosse tache sur l'écran. C'est
l'âme de
quoi.
Winnie.
Limite, on le voit encore plus qu'avant, quoi. C'est pas possible.
Alors, on a quelques photos qu'on va montrer à l'image.
Là, c'est-à-dire qu'ils auraient pu l'enlever complètement. Le virer des trailers,
mais ils ont pas demandé à Square Enix de le virer.
Ils ont mis une tache blanche.
Un nuage blanc.
Une tache blanche dessus.
Et alors pourquoi est-ce que les Chinois ont censuré Winnie l'ourson?
Oui, il y a une explication géopolitique, politique à tout cela. C'est qu'en fait, récemment, leur grand maître suprême, alors je sais plus comment il s'appelle,
c'est le président.
Xi Jinping.
Leader suprême, voilà.
Xi Jinping.
Je sais pas s'ils disent leader suprême, ils disent pas président, simplement.
Bah, c'est le premier secrétaire du Parti communiste chinois. Enfin.
Et donc,
ce monsieur en fait a été moqué à son, par son physique.
Attends, il y a un problème.
Ah.
Il faut que tu mettes le micro,
mon micro droit.
Ah, ouais, parce que sur le côté. Si tu le mets comme ça.
Ouais, sur le côté, ça marche pas.
Non, okay. Ça, c'est plus Poivre d'Arvor.
Et quand tu tiens un flingue, tu fais comme ça aussi.
Hein, MC Johnny One.
C'est un peu la méthode gangsta, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Donc, alors, puisqu'on t'a pas bien entendu, donc pourquoi est-ce que Winnie l'ourson est censuré en Chine?
Pourquoi? Eh bien, parce que leur président, c'est cela. Leur président donc a été moqué récemment. On s'est moqué de son physique en fait. On a dit qu'il ressemblait à Winnie l'ourson.
Et on c'est lui son met... surnom en fait. Hein.
Ouais.
parce qu'il est rondouillard. Voilà.
Voilà. Et on lui met des taquets un peu partout dans le monde
donc,
à cause de Winnie l'ourson.
Winnie
et donc
l'ourson
en Chine, Winnie l'ourson, il est censuré de partout de toute façon.
Alors, je sais pas si alors, dans les trailers il a été censuré comme ça. Maintenant reste à savoir si dans
dans le jeu est-ce qu'ils vont pas juste virer le modèle 3D.
Ce serait d'autant plus simple. Oui. Mais bon, après voilà, il y a des dialogues. Enfin bon, à un moment donné, si t'es prêt à mettre un espèce de nuage blanc dégueulasse comme ça sur le personnage, tu peux à la limite le virer.
Alors on dit une espèce de, je te le dis,
c'est
et
vrai.
Tu le sais très bien.
Oui, sinon
on
va se faire
striker. Continue à faire cette erreur parce qu'on est suivi par le compte Twitter qui s'appelle une espèce de, qui s'appelle un espèce de, je sais plus, enfin qui corrige, il écoute partout, il a des oreilles partout et dès que quelqu'un dit un espèce de, clac, il envoie un petit message. Hey, je t'ai entendu dire un espèce de dans le podcast numéro autant.
Et il va
donc
faire
faites
quoi
gaffe les mecs. Hein.
Il va faire quoi?
Bah rien,
il va
pas
envoyer un message.
C'est un justicier de la langue
ça
française.
Ça balance.
C'est un justicier de la langue française.
Ça
pourquoi
balance,
tu veux lui dire un message pour lui? Viens. Comment il
non,
a dit Macron
que...
déjà? Qui vient de me chercher?
Non, ouais. Ça fait quelques mois que j'arrive à dire une espèce parce que je me suis tellement moi aussi forcé à le dire. Que voilà.
Et oui, bah voilà.
Donc, moi, je vais l'accorder. Moi. Si je te parle d'un truc féminin, je te dirais une. Si c'est un truc masculin, je te dirais
un. Non, mais c'est toujours une espèce.
Non, mais c'est toujours une
espèce, c'est féminin. Voilà. Enfin bon, ceci est dit, désolé, voilà. Ça tombe sur toi, ça aurait pu tomber sur Johnny One et d'ailleurs sur moi, parce que je me suis fait reprendre de voler par le.
C'est tout à fait normal. Je précise juste d'une manière un peu plus globale que le nom de Winnie l'ourson en fait est censuré en Chine sur tout ce que tu peux poster, etc. Et qu'on s'imaginait pas que ça allait prendre, enfin que ça allait aller aussi loin et que Square Enix se voit dans l'obligation de.
Si jamais un jour, vous allez en Chine, n'écrivez pas Winnie l'ourson nulle part, sinon la police du parti arrive immédiatement.
C'est dangereux.
Vous
portez pas un t-shirt Winnie.
T-shirt rouge, tu sais.
Là tu vas pourrir en prison pendant quelques mois là si tu fais ça.
Alors bon, l'histoire ne dit pas si la voix sera aussi robotisée comme on peut le voir. Ouais. Hein. Quand on floute le visage de quelqu'un, on met un autotone sur sa voix, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà,
pour regarder
ça.
L'anonymat.
Voilà, ouais. Exactement.
Ok, voilà
donc
pour
bon,
le.
C'est quand
fail,
même bien
donc,
la loose. Hein.
C'est un peu la loose.
En tout cas, ça veut dire qu'il y aura une distribution de Kingdom Hearts 3 en Chine.
Collector, en tout cas, la
c'est
version avec
peu,
Winnie censurée.
Voilà, parce que la distribution des jeux, c'est toujours un peu compliqué en Chine. Ça passe souvent par d'autres sociétés et tout. Bon,
qui édite elle-même, ouais. Et bon, voilà. Là, il y a le potentiel Disney, donc.
Ouais.
Tu peux pas tester.
Très bien, les amis, merci pour le win et le fail. On va passer à notre deuxième rubrique avant d'aborder les thèmes de la semaine. Et comme chaque semaine ou presque, vous allez pouvoir donc écouter un jingle avec du son. Ah là là, le générique est à 10 ans. Non, non, non. Bon, voilà, ok,
magnifique.
On va pas vous la refaire 100 fois.
Il est tout pixelisé et tout.
Oui, c'est vrai qu'il est pixelisé. Bah oui, à l'époque.
La résolution d'époque, les cocos.
En fait, comment on faisait Poufy à l'époque? C'était
sur VHS,
les vidéos en 2009. C'était même pas du 720p, j'en sais rien.
Faisait le montage au ciseau à l'époque.
Ouais, c'est ça. Ah, bah, ils collaient des morceaux de vidéos sur une feuille et on les faisait défiler comme ça. Bon, c'était peut-être même pas du 720p. Bref, il y a 10 ans sur Gameblog, on creuse les archives, on rouvre les semaines. Les mêmes semaines, mais 10 ans en arrière. Et Thomas est notre spécialiste de la catégorie. Et il va fouiner dans les archives de Gameblog. Et qu'est-ce que tu as déniché cette semaine? Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 10 ans exactement sur Gameblog de notable?
Eh bien, il s'est
Thomas.
Passé plein de choses. Et je commence par un rapide mea culpa, puisque en fait, il y a 4 podcasts.
Ah, non, tu la joues franc jeu comme ça.
Pendant que tu n'étais pas là, mon cher Julot.
Évidemment, c'est quand je suis pas là.
Voilà, c'est quand tu n'es pas là, évidemment, on vient plus, on fait absolument n'importe quoi. Et on s'est trompé avec mon compère Romain, puisqu'on est allé chercher il y a un mois des infos de cette semaine de fin novembre. Donc voilà, on va éviter de refaire
malgré
les mêmes
tout,
infos.
Malgré tout, t'as trouvé assez de matière.
Exactement.
Dans cette semaine pour à nouveau dire des trucs intéressants.
Parce
sur
vous aviez déjà
la même
cette semaine il y a 10 ans dans le podcast 472, on parlait notamment de Shenmue 3 et de la nouvelle version de Gameblog.
Ah bah j'ai raté
mais
ça,
cette semaine, on commence avec Eiji Aonuma qui refait parler de lui aussi cette semaine, puisque il y a 10 ans, Aonuma déclarait qu'il avait conscience en fait qu'il n'avait pas encore réussi à surpasser Ocarina of Time. Alors c'est lui qui le dit. Hein. Chacun aura son appréciation et que pour lui c'était encore quelque chose qui le hantait un petit peu et qu'il s'était fixé comme objectif de dépasser Ocarina of Time. Et on espérait à l'époque que peut-être il y arriverait avec l'épisode suivant. Donc on est en 2008, Twilight Princess est sorti. Et l'épisode d'après, malheureusement, comme chacun sait, et comme Johnny fait la gueule, a raison, c'était Skyward Sword, qui malheureusement n'a pas réussi à dépasser grand-chose finalement. Et on sait qu'il aura fallu attendre.
C'est peut-être pas même le Zelda le moins aimé de la série.
Moi, les deux là, les deux qu'ils ont enchaîné, Twilight Princess.
Attention, tu remets dangereusement ton micro sur le côté là.
Oh, pardon. Pardon. Non, ces deux-là, Twilight Princess et Skyward Sword, moi, c'est les deux que j'aime le moins, clairement. Ah ils ouais sont tout en bas de ma liste de Zelda.
Non, Twilight, ouais, c'est quand même compliqué de le mettre
on
tout en bas.
On met de côté les épisodes CDI.
Oui, oui, bien sûr.
Et les portables, j'imagine.
Non, non, moi, je te mets même les portables devant ces deux-là.
Là, t'es dur avec Twilight Princess.
Bah ouais, mais
il a un côté best-of après, hein, Twilight Princess.
Ouais, et puis tu sais, non, mais la petite particularité du jeu, tous les Zelda ont une petite particularité, une petite pirouette de direction artistique et de gameplay. Là, c'est le loup. Moi, j'aime pas trop les trucs canidés et tout. Et cet aspect-là m'a pas plu.
Je trouve que c'est un agrégat de plein de choses.
Genre les voyages. Les bonnes idées de Zelda.
Les voyages dans le temps, un jour sans fin, les mondes parallèles, tout ça, ça me parlait vachement plus que te transformer en chien.
Il faut dire que Aonuma, donc il secondait Miyamoto jusqu'à Ocarina of Time, et le premier projet qui est le sien, c'est effectivement celui qui est juste après Ocarina of Time. Donc c'est pour ça qu'il parle de ça à cette époque-là, parce que il a repris les rênes de Zelda à partir de
Majora's Mask, qui a dû être développé en 18 mois, voilà, et qui a réussi à être le meilleur Zelda 3D ever.
Alors il y a beaucoup de gens comme toi, Thomas, qui effectivement considèrent qu'il est même mieux qu'Ocarina.
Il est moi, je suis très bon. Il a sa petite particularité.
Mais son aspect répétitif est quand même pas.
Ouais, mais
c'est un intérêt justement de connaître la routine des gens, etc. Et puis cette ambiance fin du monde psychédélique. Enfin bon. À part
dès
faire
que
le
tu
débat
me presse, je fuis. Donc Majora's Mask, j'ai jamais pu moi. Dès qu'il y a un timer qui me dit il faut faire ça, laissez-moi tranquille. Ma vie est trop stressante pour qu'en plus je joue à un jeu vidéo où on m'impose de faire les trucs. J'ai pas aimé le système de Majora's Mask. J'ai rien à dire sur son univers, sa narration et tout qui est fantastique. Mais le système de base,
et tu joues avec un chrono permanent.
En tout cas, il avait pas tort à Aonuma, c'est que j'ai beau adorer Twilight Princess, qui a effectivement un côté un peu best-of. Mais j'ai trouvé vraiment super cool. Et les phases en loup, moi j'ai trouvé ça génial avec le changement de décor, d'ambiance et tout.
Et puis le personnage de Midona aussi, qui était Midona, juste le meilleur sidekick de toute la série.
C'est clair, moi j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi cette version d'Hyrule. Justement, ça, c'était un peu le fantasme qu'on avait après Ocarina. On s'attendait à retrouver un Zelda un peu comme ça.
Heroic fantasy, mature.
Moi j'ai adoré Twilight Princess. Mais c'est vrai par contre qu'il a jamais fait mieux qu'Ocarina of Time jusqu'à Breath of the
jusqu'à
Wild.
Jusqu'à Breath of the Wild.
Pour moi. A réussi l'exploit indicible, moi j'y croyais pas une seconde, de détrôner dans mon petit cœur, à moi en tout cas, Ocarina quoi. Breath of the Wild, c'est.
Ah, voilà,
et du coup là, je sais pas comment on va pouvoir faire mieux que Breath of the Wild pour le coup. Hein.
Il lui aura fallu 20 ans pour dépasser Ocarina of Time. Peut-être qu'il faudra à nouveau 20 ans pour dépasser Breath of the Wild. Et en attendant, on continue à parler de RPG, de RPG plus classique cette fois-ci, puisque Drame, il y a 10 ans, ça va vous paraître
on l'avait pas déjà fait,
énorme. Justement non, pas celle-ci. On avait parlé de l'arrivée de Final Fantasy XIII sur Xbox 360, puisque ça avait été un mini-séisme au moment
vécu
de l'officialisation.
Comme un drame par la PlayStation Nation.
Voilà, et tu crois pas si bien dire, puisque là en fait, ça a été visiblement tellement un drame à l'époque que le corporate director Shinji Hashimoto a été obligé de prendre la parole pour s'exprimer sur le sujet en fait auprès des possesseurs de PS3. Ça paraît complètement dingo de dire ça aujourd'hui. Mais je le cite, il disait « J'aimerais que les possesseurs de PS3 ne vivent pas cela, donc l'arrivée de FF13 sur 360, comme une trahison ou une déception. Ce n'est pas comme si on annulait ou on retardait la version PlayStation 3. Il s'agit d'un gros bonus offert aux fans de la Xbox 360. » Ça paraît assez fou de devoir s'exprimer, de devoir préciser, de se justifier d'un portage.
Bah ouais, mais... Quand tu réfléchis un peu à l'histoire de Square Enix avec Final Fantasy, il y a la jurisprudence Nintendo, quoi. C'est-à-dire que le Final Fantasy, c'était lequel à l'époque, le 7, qui devait être développé sur N64 avant qu'il se barre chez PlayStation. Donc peut-être que les très gros fans de PlayStation se sont dit ça y est, on va nous faire le même coup, et je sais pas, peut-être.
Alors là, c'était l'ouvrir à un nouveau public, et en plus on en parlait.
Il sortait sur les deux plateformes, c'était quand même très très loin du. Ça sortira pas sur N64, mais finalement sur PlayStation. Là, c'était ça sortira sur les deux grosses consoles, quoi. Puis voilà. Et donc effectivement, les gens l'avaient vécu comme un drame. Et il utilise le mot trahison. Effectivement, les gens le vivaient comme ça.
Et on rappelle d'ailleurs qu'au Japon, FF13 n'est sorti que sur PlayStation 3. justement pour conserver un petit peu, pour caresser les fans dans le sens du poil. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'article, on précisait, enfin Square Enix en tout cas, jurait qu'il ne commencerait à travailler sur la version 360 qu'après avoir finalisé la version PS3, tu vois, pour essayer de calmer un petit peu les hordes de fanboys qui s'étaient déchaînés.
Mais il y avait déjà Twitter en 2008
Non, il y avait Facebook.
Ah, peut-être alors. Ça devait être commentaire Facebook, ouais.
Et bah. Donc voilà, on sait ce qui lancera par la suite, évidemment, les trois volets qui sont sortis sur les deux plateformes HD.
Pour la petite histoire et pour calmer un peu les rageux, s'il y en a qui ont encore des rancœurs de cette époque et tout.
Je pense pas.
Bon, j'espère pas pour eux, hein, franchement. La version PS3 était un poil mieux parce que je crois de mémoire que les cinématiques étaient en meilleure définition que sur la version 360 finale. Si je dis pas de bêtises. Voilà.
Ton micro, donc tu veux vraiment te tenir comme ça.
Et elle tenait sans doute sur moins de disques que la version 360.
Ouais, elle tenait sur un seul disque, exactement.
Eh bien, en tout cas, on a déclenché quelques petits débats sur le meilleur Zelda, etc.
Évidemment.
On dit, non, Julo, Breath of the Wild n'est pas le meilleur Zelda. Ok, ça va.
Et ben voilà, perdu.
Oh, pour moi, c'est le meilleur Zelda. Voilà, c'est tout. Et on cite évidemment Zelda 3 également, hein,
ouais.
Parce que c'est vrai qu'il est, il est, bah, il est intemporel, comme il est dit dans le Discord par je ne sais plus qui, par Michael Newton, voilà, le plus intemporel des Zelda, c'est clair. C'est vrai.
Et n'oublions pas Link's Awakening, évidemment.
Et oui, le
bien
rêve.
Sûr. Et puis alors, comment il s'appelle après Ocarina, donc
Majora's Mask.
Majora's Mask. Tomber des mains pour certains, préféré pour les autres, etc. Enfin, c'est vraiment... En même temps, ça doit être le seul Zelda qui a genre ses super fans.
Aussi clivant,
et
ouais.
Hater, quoi. Complètement clivant. La suite, mon cher Thomas.
Et pour finir, enfin, une autre news qui fait écho potentiellement à l'actualité. Il y a 10 ans, on découvrait pour la toute première fois un trailer. Trailer d'un nouveau jeu qui s'appelle Arkham Asylum. Oh. Alors, on découvrait les premières images grâce à Poufy. Voilà, le premier trailer et les premières images de cette nouvelle adaptation des aventures de Batman, qui aura évidemment, comme chacun sait, un petit peu marqué le jeu vidéo au moment de sa sortie, qui aura donné lieu aussi à deux suites signées Rocksteady, et puis un épisode en forme de préquel Origins, qui avait été développé un petit peu ailleurs et qui n'avait pas eu le même succès critique. Et là voilà, on découvrait pour la première fois ce qu'allait être ce nouvel épisode des aventures de Batman, qui était évidemment, enfin qui profitait d'une réalisation assez dingue quand même, et qui a réussi à me faire acheter le jeu alors que le personnage, je m'en tapais, mais alors
disons qu'on s'attendait pas à ce que le jeu soit au final aussi réussi, quoi.
Et il était intelligent, incroyable. Il était riche, et puis alors surtout cette phase où
là,
tu
peux. La première annonce, le tout premier trailer.
C'est
du
le
coup.
Tout premier trailer, on découvre les décors de l'asile, on savait pas encore exactement comment ça allait se passer, mais on pouvait déjà voir qu'il y avait une ambiance assez malsaine, assez sombre, puisqu'on voit que les teintes de couleurs quand même sont assez particulières. Et bah voilà, le
Est-ce
jeu sortira l'année
était
d'après.
C'est un tout jeune studio, c'est leur premier jeu, je me souviens plus, à Rocksteady.
Alors c'est une très bonne question.
Si vous avez la réponse sur le Discord, n'hésitez pas à l'envoyer. C'est vrai
Corrigez-nous.
Que pour moi, c'est leur premier, mais c'est peut-être leur premier succès en fait. Je sais pas, Rocksteady. Toujours est-il que c'est un jeu qui a beaucoup marqué. Et t'es pas le dernier à avoir été marqué d'ailleurs par ce jeu, j'imagine.
Je t'avoue qu'en particulier par sa suite, en fait, par Arkham City. Moi, j'étais passé un peu à côté de Arkham Asylum, mais ouais, c'est un jeu fantastique. Hein. C'est une série de jeux fantastiques.
Juste pour te reprendre un petit peu sur la liste des jeux que tu as pu faire
de Rocksteady,
de Arkham Asylum, tu as oublié donc Arkham VR.
C'est vrai, l'enquête VR,
très
tout à
très
fait.
Bon. Je l'ai fait ce week-end. C'est un peu un genre de préquel à Night. Voilà, j'en dis pas plus, il faut le faire.
Oui, où tu te retrouves dans la Batcave et tout, c'est vrai, mais à coup de pas, j'avais oublié l'expérience VR.
Et tu as aussi oublié le dernier Spider-Man. Voilà.
Hein oui, non,
ah
mais
oui,
je,
d'accord.
Ouais, forcément. Qui est une sorte de.
Oui, qui est une sorte
qui reprend qui énormément d'éléments de Batman Arkham, ouais. C'est vrai. Mais bien, donc voilà.
Ouais, oh, ouais, c'est pas mal.
Très
aussi.
Bien.
Je l'ai platiné aussi ce week-end. Voilà.
Évidemment.
Cool.
Tous les week-ends, un platinage. C'est comme
non,
ça chez Johnny.
Tous les week-ends.
Je sais pas comment tu fais. Parce qu'en plus de ça, il s'achète toutes les semaines des figurines.
Non.
Le nombre de paquets qu'on reçoit pour Johnny Wan à l'arena que vous avez pas idée.
Tu sais qu'il y en a deux qui arrivent encore. Hein.
On se demande ce qu'il y a dedans à chaque fois. Mais...
Moi,
on peut pas ouvrir.
Quoi,
ça
en tout
se
cas,
fait
il est fait livrer ici.
Des fois, c'est des gros paquets. Hein, des fois.
Ah, il n'y a pas de boîte aux lettres à la maison.
Ah,
donc, du coup, c'est plus pratique.
Ah, c'est pas pratique ça, une maison sans boîte aux lettres.
Ah non.
Puis une boîte postale, c'est chiant. Donc,
Faut se déplacer aussi. Donc autant que ce soit
la
rédaction de Gameblog. Et pour finir, du coup, pourquoi je disais que ça pouvait faire écho à l'actualité, puisque on a fait une news là-dessus aujourd'hui, donc lundi, le jour où on enregistre cette émission, comme quoi une nouvelle trilogie, enfin une compilation des trois épisodes signés Rocksteady d'Arkham pourrait débouler dès demain, mardi 27 novembre. Donc au moment où vous allez écouter ce podcast, vous saurez si la rumeur était fondée ou pas. Mais en tout cas, voilà, a priori, les trois bons volets d'Arkham pourraient
revenir. Et
t'as une collection
remaster, du coup, c'est ça ?
Alors, ça n'aurait rien de nouveau. Hein. Les remasters du 1 et du 2 sont
oui,
déjà sortis.
Oui, il y a eu une collection
et
déjà.
Et le 3, ce serait une version gothique. Quoi.
Bah, là, ça ajouterait en fait Arkham Knight avec, ouais. En plus, sur Xbox One X, du 4K et du HDR. Mmh. Voilà.
Ouh.
Mais tout ceci est pour l'instant une rumeur à l'heure où nous enregistrons cette émission.
Très bien, c'est tout pour Il y a 10 ans sur Gameblog.
Exactement, mon cher Julo.
Eh bien, nous allons donc passer à la suite, chers amis, et sans transition, on va donc s'intéresser au thème de la semaine, ou premier des deux thèmes en tout cas, mais peut-être le plus important en tout cas au niveau base de fans, je crois qu'il est intouchable. On va parler de Super Smash Bros. Ultimate, qui est donc le prochain épisode des aventures de tous nos amis Nintendo et autres séries,
et
d'autres éditeurs. Voilà, c'est l'épisode qui s'annonce comme l'épisode ultime, y compris dans le titre. T'as pu y jouer, Tiger, ouais. Longuement.
Ouais.
Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que on t'a fait cette fois découvrir les modes de solo,
oui,
en fait, qui étaient absolument inexistants dans la dernière édition.
Alors, inexistants, non. Disons qu'il n'y avait pas de mode scénarisé, il n'y avait pas d'aventure à proprement parler. Donc, il y a trois modes de jeu, dont deux inédits. On retrouve celui qu'on avait déjà sur la version 3DS et Wii U. Dans lesquels en fait c'était tout simplement un mode arcade où on affrontait les personnages les uns contre les autres, ça se finissait face à un boss, soit original ou issu d'une des séries, et on devait choisir dès le début avec un petit curseur sa difficulté, sachant que plus le jeu était difficile, plus on allait avoir de bonnes récompenses à la fin, et si entre temps on perdait, bah, le curseur baissait un petit peu, donc voilà, c'était un bon système parce que ça permettait de se mettre un peu du défi, de se mettre ensuite à niveau si on perdait, et donc ce mode est de nouveau de retour, mais le gros changement c'est que on récupère maintenant un mode aventure, un mode scénarisé dont je viens oublier le nom à l'instant, la lueur du monde je crois, voilà. Le dernier mode scénarisé qu'on avait eu c'était sur Wii,
et ça s'appelait t'as totalement oublié,
et ça s'appelait
c'était un nom à la con,
ça
comme
ça s'appelait
ça aussi.
L'émissaire subspatial.
Oh putain, mais t'as retenu celui-là, et...
j'ai beaucoup joué aussi, mais... et donc pour vous donner un peu le contexte de ce mode aventure, vous avez évidemment, j'imagine, vu cette cinématique où on voit tous les héros de Smash qui sont sur une falaise et qui font face dans le ciel à une armée de mains gantées, et ils font face aussi à Killer, qui est le grand méchant de ce jeu, qui est une orbe avec des plumes autour. C'est très mystique tout ça. Et ils sont tous happés dans des rayons de lumière, sauf un, le plus malin, le plus mignon, Kirby, qui lui arrive à s'enfuir avec sa petite étoile. Et en fait, mode aventure commence comme ça. Kirby s'écrase avec son étoile sur une sorte de map monde. Et là, tout simplement, on va aller de point en point, comme des niveaux. Hein, comme
Kirby est le héros de ce mode aventure.
Au tout départ.
Aventure.
Il est mis en valeur, mais très rapidement.
En même temps, tu mets en valeur le meilleur personnage, c'est normal.
Et puis surtout, le perso fétiche, évidemment, du créateur de Smash Bros. Hein, de Sakurai, c'est sa création. Kirby, oui, très vite en fait, parce que le but du jeu ça va être de mener différents combats et d'aller récupérer les héros comme Mario, vous le voyez en ce moment à l'écran, et on va en fait affronter un double maléfique de Mario, et une fois qu'on aura vaincu son double, on récupérera le Mario authentique et on pourra évidemment le mettre dans son équipe.
Tu peux continuer après avec lui.
Voilà, et ça marche avec plein de personnages, et comme dans l'émissaire subspatial sur Wii, dans ce mode, il y aura évidemment une narration, des cinématiques, enfin voilà, tout genre de choses. On n'a pas eu l'occasion de le voir pour l'instant. On s'est focalisé sur les combats qui répondent évidemment à chaque fois à des règles différentes. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va me permettre de passer à l'une des grandes nouveautés de ce jeu qu'on a découvert aussi. Vous pouvez voir qu'en dessous de Kirby, il y a un petit dessin avec Evoli, le petit Pokémon trop mignon avec sa petite tête de renard, là, d'écureuil qu'on retrouve.
Exact.
Et si vous avez été attentif, vous avez pu voir que j'ai démarré le jeu, parce que moi j'incarne Kirby, avec un bonus direct, un espèce de petit piquant que j'ai pu balancer
sur
Mario. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est directement Evoli ou un autre personnage qui est équipé, il y a un autre Pokémon qui est équipé aussi, qui me permet d'avoir ça, mais en gros, voilà, ces personnages comme Evoli, comme d'autres, sont ce qu'on appelle des esprits. Les esprits, en fait, c'est des personnages que vous allez pouvoir attribuer à votre personnage jouable et qui va lui donner des bonus. Là, en l'occurrence, ça a pu m'offrir un petit piquant, un petit bonus au départ, mais par moment, ça va offrir plus de vitesse, plus de résistance, ça va aussi aussi combler d'autres malus. Il y a par exemple un moment dans ma partie où je me retrouve dans une arène qui est entièrement en feu. Tout en feu. Donc le fait d'y être, déjà je suis blessé.
Tu prends des dégâts partout.
Je prends des dégâts. Et la seule manière de contrer ce genre-là, bah, c'est d'attribuer le bon esprit qui peut avoir par exemple un bonus d'eau ou qui peut rendre moins sensible au malus de feu.
Et c'est des esprits que tu fais leveler du coup, parce qu'on a vu que ton Evoli, ouais, il était au niveau 64 justement.
Exactement.
Donc t'as des capacités, j'imagine, qui vont arriver au fur et à mesure.
Tout à fait, c'est là où j'en viens à la deuxième partie du mode solo. Donc il y a ce mode scénarisé où on aura les esprits, où on pourra les obtenir, les collecter au fil des différents combats. Et comme vous le voyez là à l'écran,
tu es passé par là pour débloquer après tous ces personnages et tous ces trucs dans le mode versus en fait, ou est-ce que
tu veux dire les esprits?
Le mode solo et les esprits, ah oui, alors, les personnages,
ouais,
etc.
Alors, tout à fait, très bonne remarque. Le jeu sera proposé évidemment au final avec les 74 personnages plus ceux qui seront disponibles en DLC, sauf que quand on commencera le jeu, nous, on retrouvera en fait les 6 personnages originaux de Smash. Et il faudra les débloquer au fur et à mesure en passant par,
ces modes solo. Solo.
Absolument, ouais.
Il faut passer les 8 par, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Alors,
c'est pas la peine d'organiser une soirée baston le week-end de la sortie.
Non,
il faudra faire un week-end d'après. Ouais.
Je ne sais pas justement si c'est je sais pas si les persos qui étaient cachés dans la version N64, c'est-à-dire par exemple Luigi, seront disponibles de base, ou s'il faudra aussi les débloquer, ça c'est pas encore clair. Mais donc voilà, donc il y a ce mode scénarisé où on pourra récupérer donc ces esprits. Donc comme vous le voyez, on a toujours un esprit principal auquel on peut attribuer d'autres esprits. Comme le disait Thomas, il faudra faire évoluer tous ces esprits avec des petits bonus qu'on va récolter et qui permettront d'augmenter le niveau, donc de les rendre plus forts, tout en sachant que même si on n'a pas eu les précisions pour le moment, au niveau 99, qui est le niveau maximum, certains esprits pourront évoluer. Donc tout de suite, on pense aux Pokémon qui pourraient changer de forme, je sais pas moi.
Bulbizarre devenir.
Alors Bulbizarre, c'est un perso du jeu, donc je pense pas qu'on le trouve en esprit.
Ah oui,
mais par exemple, les Evoli pourraient devenir un Aquali, un Voltali, genre de choses.
Ouais, tu vas toujours avoir les fonctionnalités Amiibo aussi, peut-être, non?
Alors j'ai pas eu de précision par rapport à ce niveau-là, mais je pense que oui, tu vas aussi pouvoir avoir justement des bonus avec les Amiibo pour tes esprits. Et on voyait à l'instant aussi à l'écran quelque chose que j'ai pas précisé pour les esprits, c'est qu'ils répondent à un système de pierre-feuille-ciseaux. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est attaque, saisie, défense, et il y a un type neutre, donc c'est de la triche, il y a le puits aussi, mais bon, c'est comme ça. Ce qui fait que quand on fait des combats, il faudra aussi penser à ça. Si on se retrouve face à un personnage qui a plus des facilités de saisie, d'attaque, de défense et tout, il faudra mettre le bon personnage en équilibre, en esprit. Donc voilà, ça c'est pour le mode aventure, et donc ces esprits sont tellement
importants. Il y a juste une question, ouais, sur le Discord de Hyde qui demande, est-ce que tu sais combien d'esprits il y aura dans le jeu?
Alors non,
ça n'a pas été... plus de 600 a priori.
Alors ça n'a pas été précisé encore en détail, mais il va y en avoir pléthore. Pour
600 avec leurs 600 amiibo.
Non mais c'est pour une raison très simple en fait, c'est ce qui est génial, et j'en passe à la deuxième partie, donc au troisième mode solo si on veut, c'est la partie tableau des esprits, et là c'est carrément une chasse à tous ces personnages. On va se retrouver face à un écran rempli de cartes en fait, qui sont les cartes des différents personnages, chacun ayant un niveau. Donc il y a le novice, le pro...
Tu dis les personnages, on parle des personnages
des
basiques,
esprits. Non, on parle des personnages esprits, pardon. Esprits. On parle des personnages esprits. T'as le novice, le pro, il y a une catégorie que j'oublie, t'as aussi le légendaire. Et en fait, là, tous ces esprits vont être présentés. Donc il y a des persos, des méchants de Kirby, des personnages de Castlevania,
plein d'obscures références à tout un tas de
licences.
Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois t'as les musiques qui va avec, genre Castlevania, t'as la musique de Castlevania.
Oui, absolument, ouais. Et là par exemple il y avait un personnage de attends, c'est quoi déjà le titre? Day of Disaster, ou ce jeu,
ouais, Disaster Day of Crisis,
voilà, ouais, exactement. Donc voilà, il y a des persos complètement parfois anecdotiques, et moi je trouve
c'est génial.
Bah, c'est tout l'intérêt aussi, c'est quand tu te retrouves face à certains persos, tu te dis mais c'est qui, ça sort d'où, etc. Et donc dans ce mode tableau des esprits, on se retrouve face à ces cartes d'esprit, donc qui sont là de façon aléatoire. On peut d'ailleurs les rebattre. Et l'idée, c'est que quand on clique sur une des cartes, donc disons par exemple Evoli, on va se retrouver dans un type de combat avec certaines règles. Si la carte est plutôt faible, ça va se faire gentiment, quoi. Une fois le combat terminé, on gagnera la carte, et donc on gagnera l'esprit qu'on pourra attribuer. Là où c'est un peu plus fin que ça, c'est comme je vous l'ai dit, il y a aussi des cartes légendaires. Alors les cartes légendaires, elles sont un peu comme les Pokémon légendaires. Elles apparaissent quand elles veulent. Et là, par contre, ça va être de vrais défis les collecter, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de l'arène en feu, bah là c'était le cas. Il y avait une carte légendaire d'un des personnages de Xenoblade Chronicles, donc tout de suite j'ai vu légendaire, je me suis dit, ah bah trop bien, je vais aller choper celle-là et tout. J'avais mes esprits que j'ai attribués à mon personnage pour être voilà, bien buffé, bien au point, et puis je me retrouve dans cette arène en feu où tous les mecs ont mangé du curry, enfin tous les autres personnages ont pris cet item du curry, donc ils crachent tous du feu, donc au bout de deux secondes c'était terminé. Donc voilà, on pourra prétendre à capturer ces esprits qu'une fois vraiment préparés et qu'une fois qu'on aura aussi les cartes en adéquation. Donc voilà pour le mode solo. Et
est-ce que tu peux jouer quand même à deux à ce mode aventure?
Alors j'ai pas eu ces précisions là non plus
parce
pour
que
l'instant.
Ouais. Effectivement, tu parlais de ça. Ça a l'air gigantesque.
Ouais.
Deux, t'as l'air obligé de passer par là si tu veux débloquer tes personnages, etc. Donc effectivement,
t'as trop lourd en soirée.
T'as envie, voilà, t'as envie de. Sûr. Tu viens d'acheter le jeu, t'es pas une fan de Smash avec toi. Tu peux, si tu peux y jouer que tout seul au départ,
ouais,
c'est un peu chiant.
La lose.
T'as un petit roster de début quand même.
Oui, oui, non. Et puis
bah, dans 8 personnages.
Ouais, bah, 6, dans l'émissaire subspatial, on pouvait jouer à deux à l'époque sur Wii. Donc.
Je pense qu'ils vont quand même.
Surtout que tu vois, regarde, Charlotte Olin, la série Castlevania. Tu l'apprends.
Je pense que plus la connaît.
Oui, il sortirait l'épisode et sa date de sortie. Mais rappelez-vous de l'époque des jeux de baston Namco, des Tekken, des Soul Edge, etc. T'avais qu'une moitié, sinon moins,
ouais,
du roster
alors,
quand tu
les
lançais.
Les modes solo étaient anecdotiques, c'est-à-dire que t'affrontais tout le monde une fois. Là, ça a l'air d'être un mode solo qui dure, dure 50 heures.
C'est pas nouveau. Hein. Dès le premier Super Smash Bros, t'avais quand même des persos qui étaient un peu tendax à débloquer.
Bon, un Soul Edge, c'était quand même... 10 persos dispo, c'était pas si difficile que ça de les avoir, non, non
bah, fallait finir
non, mais
le
là,
modèle avec tout le monde, fallait passer du temps, c'est ce que je veux dire,
mais,
c'est qu'il fallait s'investir un peu aussi.
Non, mais là, ça se débloque quand même assez rapidement parce que par exemple, Mario ou Mars de Fire Emblem, qui est le troisième personnage que j'ai débloqué, c'est au bout de deux combats, donc ça va quand même d'accord. assez vite pour les récupérer.
Il y a une telle dose de personnages que.
Mais ça veut dire que, comme dans tous les épisodes, il y a des persos que tu seras fier d'avoir en fait, parce que ça voudra dire que t'as réussi à faire quelque chose et tu pourras te la péter en jouant avec en
après,
ligne.
Après, la précision est de savoir parce que je veux pas avoir induit en erreur. Je pense que on récupère comme d'habitude dans le mode arcade les personnages. Je suis pas totalement sûr que le mode lueur du monde soit celui où on récupère les personnages directement pour après le versus.
Oui, parce
voilà,
que
ça,
t'as
ça
des rosters différenciés
choses,
d'après ce que tu
ça
dis.
Ça reste
ouais.
encore des choses à préciser, mais pour ce qu'on sait en tout cas et pour ce que j'ai joué, donc on peut considérer qu'on a maintenant trois modes solo, là où on n'en avait qu'un et demi parce qu'il y avait les phases de plateforme aussi dans la version 3DS Wii U.
Ah oui,
à l'époque.
Elles sont de retour là aussi, j'ai vu les phases.
Oui,
de
oui, mais en phase bonus entre deux combats. Donc du coup, on a lueur du monde, donc le mode scénarisé, le tableau des esprits qui s'intéresse vraiment juste à la chasse aux esprits, et puis toujours le mode classique qui est en fait un mode arcade, mais qui a la bonne idée aussi de proposer un boss différent selon le personnage qu'on prend. Donc ça change aussi un peu le rythme et voilà, ça change un peu la proposition à chaque fois. Donc ça, c'est chouette.
Il y a Nosfor qui parlait sur le Discord du. Il y a déjà un Season Pass en fait qui est annoncé.
Ouais, tout à fait.
30 euros le Season Pass hein, quand même.
Bah ouais.
Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y a ?
Bah il y a des personnages à récupérer quoi.
Donc, il y a la plante Piranha pour l'instant.
La plante Piranha, c'est le premier qui a été annoncé.
Il faudra passer par le Season Pass pour avoir tous
oui.
les persos
bah,
quoi.
Vu le roster que vient de nous montrer Poufy, je pense que tu peux déjà peut-être te satisfaire un peu des
oui,
personnages
oui.
de base.
C'est pas comme
que...
si tu foutais ta gueule voilà. sur le.
Je pense que tu vas passer plusieurs centaines d'heures.
Le service risque d'être très fort. Hein. Mm. Qui te dit qu'ils vont pas te mettre une petite Toubi ou un truc comme ça?
Ah, bah il faut jouer sur les bons personnages,
voilà,
là, bien sûr. Hein,
je veux dire,
Toubi, elle a déjà de quoi faire dans Soul Calibur
oui,
en ce moment.
Cas, ouais.
Après, tu dis que le truc est bien rempli, certes, mais ce Smash Bros a quand même des allures de compilation en fait.
Alors,
ce qui existe déjà,
ouais.
les nouveautés peut-être étant assez rares, quoi, non?
Alors non, pas du tout.
Pas du tout.
Non,
t'as vu comment je te lance.
En effet, t'as absolument raison. C'est une compilation de tout ce qui a été fait dans Smash Bros à ce jour.
Je crois
parce
que le seul
que...
perso bonus, on le voit à l'écran d'ailleurs à ce moment, c'est
Ridley. De...
Ridley.
Non, il y a aussi la petite chienne là de
bon,
Animal
deux,
Crossing qui s'appelle.
Non, mais je veux dire vraiment nouveaux qui n'ont jamais été dans aucun Smash.
Eux, ils
pas
sont
tellement.
Nouveaux. Non, il y en a quelques-uns qu'on va aborder, mais c'est vrai que. L'aspect compilation peut être vu d'une certaine manière parce qu'il y a en effet tous les personnages et tous les niveaux
de
qui sont apparus à ce jour dans Smash Bros. Donc de ce point de vue là on peut voir ça comme ça. Là où je mettrais un bémol sur cette manière de voir les choses, c'est que tous les personnages disposent vraiment de mimiques, d'animations qui sont nouvelles, de nouveaux coups aussi. Par exemple, Link se joue différemment, c'est Bomb qui a le Link de Wind Walker,
De Breath of the Wild, ouais. pas le Link de Wind Waker. Avant, on lançait ses bombes, elles les explosaient toutes seules. Maintenant, il faut les activer. Enfin voilà, il y a des différences pour chaque personnage par rapport aux autres jeux.
Donc il y a une redécouverte quand même.
Par exemple, le personnage du Wii Fit Trainer, le visage a été refait. À la demande des concepteurs de Wii Fit, parce qu'ils trouvaient que le personnage, voilà, ils n'étaient pas assez jolis, quoi. Et on a donc quand même des nouveaux personnages, parmi lesquels Ridley et Marie. Moi, j'ai pu jouer avec tous les nouveaux personnages. Ridley, c'est un peu compliqué à manipuler pour l'instant. Marie, ça ressemble évidemment beaucoup aux villageois. Un personnage qui, je pense, enfin un duo de personnages qui va être très populaire, je pense, c'est Simon et Richter, qui dans leur manière d'être joués de Castlevania évoque un peu en fait Megaman et Link, parce que faut beaucoup joué avec leur arsenal, et il y a un truc très cool pour leur smash. Alors vous savez, le smash, c'est le coup qui propulse dans les airs. Faudra vraiment bien se placer, parce que la pointe du fouet, le bout du fouet, le claquant du fouet, c'est là où est le smash. Donc vraiment, quand on
connaît bien la distance,
voilà, exactement, quand on est à la bonne distance, ça fait un smash de toute beauté. On voit aussi King K. Rool, donc le méchant de Donkey Kong, qui est apparu
pour mon cas de manière assez surprenante. Numéro 6 tout à l'heure, qui disait qui disait le scoop du soir, il y a des méchants dans Kirby. Parce qu'apparemment, ouais, on a parlé des méchants de Kirby.
Il y a Meta Knight, il y a King Dedede. Enfin, oui, ouais. Bien sûr, il y a toujours eu des méchants.
Mais ils ont pas l'air très menaçants, quoi.
C'est des méchants qui débarquent dans la chambre le soir.
Alors, quand le méchant, c'est un pingouin géant.
Faites gaffe, parce que j'ai découvert il y a quelques années qu'il y a une fanbase Kirby ultra pointue, et qu'il y a genre un message caché dans les Kirby si tu fais toutes les vraies fins. Un truc complètement dingo. Voilà, donc ne démarrons pas un débat comme quel est le meilleur Zelda tout à l'heure. Il y a des gens qui risquent de s'énerver.
Mais en tout cas, bah, pour King K. Rool dont je parlais, c'est un perso assez surprenant, parce qu'il est plus vivace qu'on pourrait l'imaginer. Et puis il a une petite technique de fourbe, c'est qu'il a une couronne et il la lance façon boomerang. Donc par exemple, quand vous avez une mort subite, vous savez, où c'est le premier qui touche l'autre, c'est fini. Bah, la couronne, elle passe derrière, donc tu peux te dire, ah c'est bon, et hop, un petit coup dans le dos et le smash est fini. Donc je pense que ça va faire criser. Il y a le Inkling aussi, donc l'héroïne ou le héros de Splatoon, on peut choisir son skin, qui est très chouette, qui est un peu difficile à prendre en main, parce qu'il est très rapide. Avec un rouleau, il peut passer sur tout l'écran pour recouvrir tout le monde de peinture. Et il est aussi intéressant à distance, parce qu'évidemment il a son petit fusil de peinture. La seule chose, c'est qu'il faudra faire attention à pas le vider complètement, et pour le recharger
de temps en temps, comme
voilà,
dans Splatoon,
il faudra se retransformer en calamar et à plonger un peu. D'ailleurs, si c'est moi, oui, c'est moi qui incarne Nickling, vous voyez, 115%, j'ai encore un peu de marge de progression.
J'avais beaucoup aimé découvrir ce personnage. On l'avait essayé avec Romain à l'E3, et c'est le personnage que j'avais préféré, moi, Linkling.
Non, il est très très chouette, et c'est vrai que Smash, c'est aussi le soin du détail constant à tout, ce qui fait que même parfois on a l'impression que les personnages sont traités avec plus de soin que par leur propre éditeur. Je pense par exemple à Megaman, voilà, où il y a un soin vraiment particulier. Et là, avec les personnages de Splatoon, bah, on a tous les combattants qui vont être recouverts de peinture, voilà. Enfin, il y a tous ces petits détails qui changent tout, quoi. Et puis bah, parmi les nouveaux personnages, il y a aussi Feline Inferno, qui est un Pokémon catcher, voilà. Donc lui, il est plus dans la saisie, donc encore des nouveaux types de personnages qui permettent des choses différentes. J'ai pas parlé des personnages Echo, qui sont en fait une variante de personnages déjà présents. Par exemple, il y a Ken qui fait son apparition, qui est évidemment le personnage Echo de Ryu. Il était déjà finalement dans Street Fighter d'une certaine manière.
Finalement,
le personnage...
il y a quand même pas mal de nouveaux persos. Hein.
Ouais, bien sûr.
Je me suis fait reprendre un petit peu.
Toute la ligne du bas, là, à part les Boxer Mi et Pace Mi, tout ça c'est nouveau. Voilà, en plus des personnages qui vont arriver en DLC. Donc là, on a 74 persos.
T'as
voilà.
Aussi les DLC du précédent, de la version Wii U. Je vois par exemple Bayonetta. Des
ah oui, oui, absolument. Ouais. Tous ceux qui étaient proposés, absolument.
Sur Wii U,
ouais. C'était le cas de Cloud, de Final Fantasy VII, de Bayonetta. Ils sont présents directement dans le jeu. Voilà. Donc gargantuesque en termes de personnages, en termes de contenu solo, on a pu le voir, parce que déjà le contenu solo, ça va prendre du temps. Et je pense que ce qui est intéressant dans Smash, c'est que c'est un jeu qui est très populaire, mais je pense de différentes manières, tout le monde, enfin chacun l'aborde à sa manière. On peut évidemment, et vous pouvez le voir sur YouTube, il y a des mecs qui sont très spécialisés dans ça, qui vont vous parler des techniques de combat, de comment se placer.
Bah, je pense que par exemple, toi et Johnny One, vous n'avez pas du tout la
exactement.
Même façon de l'apprécier.
Je pense que Johnny, il a une approche vachement plus versus fighting, etc. Alors que moi, ce qui me plaît, c'est vraiment l'aspect...
collection
encyclopédique, je dirais. Mm. C'est presque un jeu vidéo musée, quoi. Tu vois, si t'aimes le jeu vidéo japonais, il y a tous ses représentants, toutes ses mascottes.
Mais surtout là, avec les esprits maintenant, et voilà, ils ont dû en mettre encore plus, quoi.
Exactement.
Il y a encore des trophées à côté, les items que tu récupérais alors, dans les premiers Smash.
Il y a toujours, on peut le voir en jeu. Par exemple, là, il y a un trophée que Sazy Boozer qui va lancer, ça va faire apparaître un personnage. Mais il n'y a plus cette collecte des trophées comme il y avait dans les autres versions. En fait,
d'accord.
C'est remplacé par les
esprits. Avec un petit bout de texte explicatif. Là, ça devient les esprits, d'accord.
Ça devient les esprits. Voilà. Et du coup, bah, encore dans cet aspect collectionniste, l'idée de Jenny, c'est d'en avoir fait des cartes avec des étoiles, voilà.
Et
si vous êtes sensible à ça. Et puis évidemment, il y aura les amiibo.
Alors le coffret
avec,
collector là, quand même, putain.
50 exemplaires qui sortira au Japon.
64 amiibo avec le jeu, c'est ça?
Bah 74.
Ouais. 74, autant que les personnages du jeu, ils
et
ont
voilà,
tous leur amiibo. Voilà.
Et bah,
donc. Alors t'auras quel Bayonetta dedans, le P2 ou le P1?
Ah, bonne
ça,
question.
Petit
détail amusant par rapport au fait que, par rapport à l'aspect encyclopédique, et tu parlais des musiques tout à l'heure, Julo, c'est qu'il y aura une fonction avec cette version Switch pour pouvoir glisser sa Switch dans sa poche, dans son sac à main, et pouvoir mettre ses écouteurs pour pouvoir écouter l'OST qui est évidemment fantastique parce qu'il y a
les
thèmes, tu parlais de Castlevania et tout, sans compter tous les remixes qui sont faits qui parfois
Metal
sont
Gear,
super originales. Oui, bah ouais, Metal Gear, voilà. Et donc il y en a pour des heures et des heures de jeu.
Ah, il y a juste un truc que j'ai pas compris avec les esprits. Tout à l'heure tu disais, donc t'as ton personnage, tu peux lui coller un esprit et tu disais en plus de ça il peut y avoir trois autres trucs.
Oui, en fait,
c'est
oui,
quoi,
c'est
des esprits,
tout à fait, c'est ça que j'ai pas précisé. T'as en fait différentes catégories d'esprits. T'as un esprit primaire et t'as des esprits de soutien. Donc en gros, tu vas mettre.
Parce que l'esprit, c'est déjà un soutien de ton personnage.
Oui,
et
c'est
là,
ça.
C'est des soutiens au soutien.
Bah, t'en rajoutes en fait, parce que ça répond à comment dire, à des slots en fait. Tu peux pas mettre des esprits indéfiniment en fait. Donc par exemple, on voyait tout à l'heure le gardien de Breath of the Wild. Lui, il va prendre deux slots là où par exemple un Evoli n'en prendrait qu'un et où tu peux.
Ah, donc ça marche comme l'inventaire des anciens Resident Evil où tu dois remplir des cases.
Ouais,
en fait.
Y a de ça, ouais. Exactement. Voilà.
Et donc tu peux essayer d'en caser plein quoi, si t'as envie.
Plein, ça reste quand même limité quoi. Je pense que je sais pas combien.
Mais tu peux mettre des gros et des petits quoi.
Oui, c'est ça.
Y a plusieurs
tailles. Et puis surtout, faut se dire, c'est toujours cette réflexion de se dire bon, bah voilà, si j'en mets trois petits, ils m'offrent ça, mais je vais être moins puissant que si j'en mets un gros sur cet aspect-là. Enfin voilà, il y a tout un. Et en pensant aussi au pierre-feuille-ciseau. Donc j'ai expliqué tout à l'heure en fait que chacun a une puissance
attention.
Et tout. Enfin voilà, il y a, tu vois, rien que dans ce truc qui paraît juste un aspect collectionniste, il y a tout aussi un jeu de réflexion, voilà, qui emprunte à Fire Emblem.
J'aime de Street versus Tekken aussi.
Ouais, absolument, absolument.
On a une petite question technique sur le Discord. Ouais. Est-ce que tu sais quand la console est en mode docké si le jeu sort en 720 ou en 1080?
Je sais pas. J'étais dans une présentation, tu sais, où on me montre les choses qu'on veut bien me montrer.
On te reprend la console, dire non, vous pouvez pas voir les menus.
Non, mais ça s'est très bien passé, les gens étaient très gentils. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de questions qui malheureusement restent pour l'instant sans réponse. Et voilà.
Faudra attendre le test, exactement.
Est-ce que t'as été, toi qui attendais le jeu, qui adore la série, t'as été surpris par ce que t'as vu, je veux dire agréablement surpris, ou est-ce que tu as eu ce que tu pensais avoir avec cet épisode?
Alors je t'avoue que tout comme toi, même si j'attendais le jeu, j'avais ce sentiment un peu compilation. J'avais vu les Nintendo Direct où on expliquait tout ce qui avait été refait, tout ce qui avait été amélioré, mais malgré tout, je pouvais penser dans un petit coin de ma tête qu'on avait face à une version Deluxe, aussi bien soit-elle, quoi. Et là, quand j'ai découvert ce système solo avec toutes les règles et les sous-règles et les heures de jeu que ça peut entraîner, et ne serait-ce que pour l'aspect collectionniste, mais aussi pour l'aspect « je veux un personnage qui soit capable de me permettre d'en affronter d'autres », je me suis rendu compte de la nouvelle profondeur qui avait été rajoutée à ce jeu et que c'était pas seulement superficiel. Et du coup, je l'attends encore plus, et pour le coup pas seulement pour me dire ah cool, il y a 74 personnages, c'est une encyclopédie, c'est etc., mais aussi parce que ces nouveaux systèmes de jeu qui se greffent sur ceux qu'on connaît déjà, hein, de baston, party game rigolo si on n'y joue pas sérieusement, et vrai jeu de, je sais pas si on peut appeler ça du versus fighting, mais en tout cas de vrai jeu de baston.
Pour moi c'est plus un party game.
Oui, voilà, je vous invite vraiment.
Je reconnais qu'il y a une grosse technique.
Ouais,
moi,
ça reste technique.
Ah,
ouais,
parce que tu me mets une manette entre les mains à Smash, je me fais je me fais défoncer par.
Parce que moi, je t'avoue que pour pouvoir en parler correctement, j'ai vraiment aussi, j'ai voulu chercher à me renseigner sur cet aspect qui, moi, me parle moins. J'adore les jeux de combat, mais je suis pas du tout un joueur pour pro ou quoi. Et souvent, j'entendais même ce discours de dire « Ouais, mais bon, c'est pas un vrai jeu de baston et tout. Bah, » Je vous invite vraiment à aller sur YouTube, à aller voir les vidéos des mecs qui sont passionnés, qui sont professionnels et qui vous expliquent comment jouer le tout.
C'est un jeu e-sport,
c'est hallucinant.
Il y a une vraie scène pour Smash, ouais.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi, en dehors de la technique, tu dois vraiment bien connaître le roster. Et là, je veux dire, il est tellement vaste. Tu dois connaître les autres persos pour mieux les affronter. Quoi.
Anticiper leurs attaques, etc. Exactement. Ouais, c'est beaucoup de boulot.
Et
c'est...
en plus, avec les 600...
Les esprits.
Ouais. Mais voilà, enfin c'est.
C'est-à-dire qu'ils ont trouvé 600 personnages hors roster dans toute leur licence, quoi. Bon, avec les Pokémon, c'est facile.
Tous les ennemis de Mario.
Et je crois même pas qu'il y ait tant de Pokémon que ça, parce que je te dis, parmi les personnages qu'il y avait, il y a un petit lapin mignon, je savais pas ce que c'était, tu cliques dessus, t'apprends que c'est un méchant dans Kirby, quoi. Voilà, donc ça se trouve assez facilement. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai plaisir de découvrir un perso et de se dire.
Un quiz Nintendo, en fait.
Mais c'est ça. C'est... Ouais. Et au-delà, parce qu'il y a les licences Final Fantasy,
il y a du Capcom et du Konami.
Street Fighter. Oui, il y aura les personnages de Street Fighter, en esprit. Toi, tu pourras mettre un Zangief ou une petite
chaîne. Tu mettras Zangief sur ton Mario.
Ouais, c'est trop cool. Enfin oui, donc j'y allais évidemment en sachant, c'est pas une surprise, hein, qu'on allait avoir un jeu, un bon jeu, très convaincant. Du jour au lendemain, Nintendo n'allait pas nous sortir un Arc Park pour un jeu que j'ai pu tester récemment.
T'as été traumatisé, hein.
J'étais très déçu surtout. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que non, ce n'était pas juste une compilation, c'était un vrai nouvel jeu avec de nouvelles règles et avec un soin du détail dans tous les secteurs, que ce soit dans le gameplay, dans les graphismes, dans ces nouvelles manières de jouer. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu très généreux.
Juste un truc, les esprits, ils apparaissent que en icône à côté de la tronche de ton personnage, ils apparaissent pas sur le ring à un moment donné. Par exemple Evoli, tu le verras pas.
Non, pour ça
c'est vraiment qu'une image à côté de l'image de ton personnage.
Mais alors du coup c'est
soutien ou truc comme ça, tu sais, parfois dans les jeux de baston le personnage de soutien vient, donne un coup de coude et repart.
Justement, tout à l'heure t'avais ce petit objet là avec un personnage noir, lui quand tu le lances ça te permet de faire apparaître un personnage comme ça de soutien aléatoirement. Donc en fait les esprits se rajoutent aux personnages qui déjà étaient ajoutés en plus dans les jeux récents. Quand t'avais pas un personnage jouable qui était souvent demandé par les fans et tout, on le retrouvait souvent en soutien. Alors on voit il y a des Pokémon, des personnages de Fire Emblem et tout, et maintenant ces personnages sont toujours là, c'est toujours, il y en aura sûrement des nouveaux et tout, mais auxquels s'ajoutent en plus les esprits. Donc d'accord. Voilà.
Ok, bon, alors il y a quelque chose d'énorme qui arrive là en décembre. C'est début décembre la date exacte.
Le 7 décembre.
Donc attendez-vous bien évidemment à avoir assez rapidement un test sur Gameblog. Et c'est évidemment Tiger qui va s'en charger. Ça arrive très bientôt. On risque d'en reparler dans un podcast prochain et évidemment dans un test en bonne et due forme. Quelque chose à ajouter, les gars, sur Smash Bros?
Non, ça a l'air pléthorique, ça me ferait presque envie en fait.
Ouais, parce que toi t'as un peu lâché Smash Bros depuis quelques années.
Depuis l'épisode GameCube, je crois.
Et donc là,
ça fait longtemps. Et là, de voir ce côté encyclopédique dont parlait Tiger, moi j'adorais découvrir des trivia, découvrir des ennemis dont tu t'ignorais l'existence, qui sortaient des licences obscures japonaises qui n'avaient pas quitté la Super Famicom, ce genre de truc. Pour cet aspect-là, ça me donnerait presque envie. Ouais.
Johnny One?
Non, rien à signaler.
Rien à signaler, carrément.
À signaler.
Johnny, il attend Toby dans Soul Calibur.
Voilà.
Bah, il peut pas jouer à tous les jeux de baston, Johnny One.
C'est probable, hein. C'est très probable. Hein.
Bon, bah, Johnny One, on va quand même te donner la parole à partir de maintenant, plus sérieusement, parce que t'as pu faire le test de Darksiders 3. Est-ce qu'il est à la hauteur de ses prédécesseurs? Vous avez un petit indice chez vous, parce que le test est paru et qu'il a eu 6.
C'est pas une mauvaise note.
C'est pas une mauvaise note, c'est satisfaisant, comme le dit le petit mot qui est à côté de la note. Et ça reste malgré tout peut-être un peu décevant pour les gens qui s'attendaient à un niveau de qualité, on va dire, supérieur, comme c'était 2018. Le cas avec Darksiders et Darksiders 2, sorti il y a quelques années. Là, il y a eu quand même pas mal de temps qui s'est passé.
Ouais, 6 ans entre les deux épisodes.
Alors d'abord,
le
tiens, justement, est-ce que tu veux pas nous faire
un petit historique
qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, alors en 2000, je ne sais plus combien, il y a 8 ans, un petit studio du nom de THQ.
Ça va faire 2010, je pense.
Ouais, voilà, son studio Vigil Games nous pondait un petit Darksiders, pas piqué des hannetons, qui était un genre de Zelda-like dans un univers post-apocalyptique où les anges et les démons se livre une guerre éternelle sur Terre en fait, dans les restes de l'humanité. Voilà. Donc on avait vraiment un jeu qui était très sympa à l'époque où on jouait un des 4 cavaliers de l'apocalypse, Guerre, qui bah voilà, se baladait dans des petits donjons, récoltait des nouveaux items, enfin voilà, un peu comme dans un Zelda.
Un jeu
bah,
qui vous avait beaucoup surpris à l'époque par ses qualités.
Raon te dirait que c'était un Zelda pour les grands quoi.
Ouais,
lui qui était très fan.
Bah lui
de la
c'est un jeu à la Raon comme on dit chez nous.
Un jeu Raonsburger.
Non mais autant dans le design, parce que à l'époque il y avait Joe Madureira qui avait fait tout le design,
dessinateur de comics.
Voilà, ouais. Dessinateur de comics, un fameux dessinateur
très
de comics.
Connu pour ses comics.
Et c'est vrai que à l'époque le jeu vous avait vraiment surpris par ses qualités.
Ouais, moi ça sortait de nulle part. Hein. Moi je l'avais acheté sans trop savoir à quoi j'allais jouer et je m'étais vraiment pris une bonne claque à l'époque.
Voilà. Donc ensuite... il était destiné à avoir plusieurs suites.
Ouais,
parce que
ouais,
après
4 cavaliers, donc après guerre, chacun son cavaliers. Jeu. Voilà. Donc 2 ans après, on a eu Death, Mort en français, qui avait droit à son jeu, qui revoyait un petit peu la formule en y ajoutant notamment beaucoup plus de composantes RPG. Plus lourde, beaucoup plus lourde que dans le premier épisode. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le troisième épisode, il n'a jamais vu le jour à l'époque, parce que THQ
est mort.
Et ils sont morts, ils ont fait faillite. Et du coup, dans leur chute, ils ont entraîné Vigil Games, donc le studio qui était à l'origine.
Qui leur appartenait.
Ouais, voilà. Qui était à l'origine des 2 premiers épisodes de Darksiders. Donc, Darksiders 3,
Canet, comme on
Canet,
dit.
Il est mort, quoi. On n'en reverra jamais la couleur. Or, dans cette histoire, heureusement, quelque part, on a des Autrichiens donc, qui sont à Vienne. C'est alors leur ancien nom, je ne me rappelle plus de leur ancien nom. Nordic Games, je crois.
Nordic Games, ouais.
Voilà.
Qui a racheté THQ,
qui s'est d'ailleurs renommé depuis THQ Nordic. Ils ont plus ou moins pris l'image de la marque qu'ils avaient rachetée, qui avait coulé.
Et donc, vous entendez souvent parler parce qu'ils rachètent les studios en pagaille.
Ouais, ils sont un peu spécialistes du rachetage de studios en péril. Voilà. Donc, Nordic Games qui nous sort des licences comme ça qu'on croyait mortes et enterrées. Et donc, c'est le cas de ce Darksiders, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais, THQ Nordic a donc recréé un studio qui s'appelle Gunfire
Games.
Voilà.
C'était à l'écran.
Regardez, j'étais en train de regarder.
Ton niveau de connaissance
m'impressionne. Tu cherches la réponse dans les yeux de Tiger.
Quelle connaissance.
Il connaît tous les
Games.
Alors, fondé en quelle année Gunfire Games?
On attend Poufi nous mettre la réponse.
Poufi, aide-moi.
Poufi, maloté.
Alors,
constitué d'anciens de Vigil
Games.
Ouais,
voilà, et ça c'est cool parce que Gunfire Games, c'est les gens qui avaient perdu leur emploi à l'époque, ils en ont retrouvé un.
Et c'est marrant parce que je vais me permettre une petite parenthèse, Génial, parce que quand Nordic Games a racheté le catalogue THQ, une des premières choses qu'ils ont dit et qu'ils avaient comme un drapeau, c'était on va faire la suite de Darksiders. C'était un peu le premier gros projet et toute une frange de joueurs s'est dit yes, la licence n'est pas perdue. Or c'était il y a donc 8 ans
6 ans le deuxième, donc ça a dû arriver il y a... Voilà. Donc, l'annonce du rachat, ça fait bien 3-4 ans je dirais, et la faillite 4-5 ans,
sachant qu'il y a eu un remaster entre temps aussi.
Oui, il y a
sorti
eu des remasters du premier et du deuxième. Ouais. Tu as avec le 3 sur ta Play 4, tu peux avoir le 1, le 2, le 3 sur ta PlayStation 4. D'ailleurs, il y en a un des 3 qui a été, enfin le 1 ou le 2, je sais plus lequel, est dispo en
sur Xbox One. T'as la rétrocompatibilité qui te permet de jouer aussi au.
Alors,
au 1 et
je
t'avoue
ne pas avoir cette information,
bah,
ne pas l'avoir fouiné. Ouais, ok.
Ouais.
Donc tu peux jouer au premier, au deuxième sur ta Xbox One. Donc voilà. Donc le jeu. Aujourd'hui on est en 2018, le studio était mort aux alentours 2012-2013 et le jeu débarque et malheureusement la première interrogation qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est pas un petit peu en retard ce jeu, parce que on se rend compte tout de suite, hein, la technique, vous voyez par exemple à s'afficher à l'écran les modèles 3D de Guerre par exemple, Guerre, moi j'ai l'impression de revoir exactement le même que celui que j'avais vu quand j'avais joué au jeu sur Xbox 360. Clairement on est sur une technique d'un autre temps, que ce soit en termes de modèles 3D, donc qui sont assez vieillots, hein, faut le dire, hein, tout ce qui est texture, etc., c'est pas extraordinaire. En plus de ça, on a de l'aptitude de framerate, des petits freezes sur les temps de chargement, des trucs qui font bien.
Tu sens qu'il n'y a pas les mêmes valeurs de production, tu vois.
Clairement, techniquement,
quand tu compares les époques,
on n'y est pas. Et graphiquement parlant, je pense, hein, sans trop m'avancer, que le jeu pourrait aisément tourner sur la précédente génération de consoles, c'est-à-dire que ce soit sur PS3 ou sur Xbox 360. Il pourrait même aussi très probablement sortir sur Switch un jour. Étant donné que tout sort sur Switch.
Qui sait. Donc techniquement parlant, bah déjà on a
une petite déception.
Mais
c'est
là,
que la technique, regarde, les gens qui avaient laissé Darksiders 1 et 2 comme un énorme souvenir et qui attendent impatiemment Darksiders 3, ils se disent à la limite si c'est un peu vieilleux techniquement,
c'est pas très grave.
Tant que le reste suit. Alors la question c'est le game design, lui, il a vieilli aussi. Alors, ou est-ce qu'ils ont ils se sont mis à la page
de game design. Tiens, déjà on va parler d'un truc qui réussit, c'est tout ce qui est le lore, l'aspect fan service, l'univers qui est développé. Bah oui, là les fans forcément ils vont être contents puisque bah déjà ils avaient perdu tout espoir de voir cet univers à nouveau développé. Et bah là si, ils vont le voir. Ils vont voir un nouveau, alors c'est pas un pan de l'histoire hein, c'est une j'ai envie de dire une partie de l'histoire, puisque cette partie en 4 parties, les 4 parties se passent plus ou moins toutes au même moment, d'accord, à quelques centaines d'années près.
Attends, j'ai rien compris. Tu parles par rapport aux autres épisodes.
Ouais, voilà.
On a le point de vue d'un autre personnage,
voilà,
mais sur
de
des événements,
sur des événements
en fait.
Qui sont.
Ah, ça se passe au même moment que Darksiders.
Alors
Night
pas vraiment. Celui-là commence en fait quand Guerre est. En fait, tu sais, dans le premier Darksiders, alors, si ma mémoire est bonne, Guerre au début est accusé d'avoir déclenché l'apocalypse, ouais. Et ensuite emprisonné, et il ne débarque sur Terre lui qu'une centaine d'années après cet apocalypse.
D'accord.
Voilà. Et donc là le jeu commence, Guerre vient d'être emprisonné et accusé.
D'accord.
Tu vois,
donc
ça
c'est
se
pas
passe
des suites
pas
chronologiques,
tout
quoi.
À fait exactement au même moment, mais en fait c'est 4 histoires parallèles et qui se rejoignent. Bon alors spoiler,
non, spoiler,
j'en dis pas.
Pas de spoiler.
Mais bon, en gros Darksiders 1, Darksiders 2, pour ceux qui les ont finis, ils sauront de quoi je parle. Voilà. Par rapport à ce jeu là donc voilà, voilà, donc ça c'est une réussite clairement, on est content de pouvoir à nouveau,
j'ai envie de dire, l'essentiel
aventures.
Est sauvé,
ouais,
moi
ouais.
Je pense tout de suite à Shenmue, je sais pas toi mais
c'est marrant ça, la phrase que t'as faite avant, je remplaçais Darksiders par Shenmue, je me dis ouais ça marche aussi
bah,
ce
ouais.
En train de
non
dire.
Parce que quand Shenmue 3, je sais que Shenmue 3 n'aura pas les mêmes valeurs de production,
ouais,
que Shenmue
sûr.
1 et 2 en leur temps, évidemment c'était le putain de blockbuster, qu'on n'avait jamais dépensé autant de pognon dans un jeu, et là c'est un Kickstarter, tu vois.
Ouais, ouais.
Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les valeurs de production, on sent bien qu'elles sont pas du tout les mêmes, quoi.
Non. Bah,
dans une moindre mesure.
Que ça limite forcément le public visé, parce que
ouais.
Moi j'avais fait la
preview
de
T'as envie
de
juste
Darksiders.
Que le lore soit respecté,
ouais,
t'as envie
ouais.
D'avoir la suite ou un autre pan de l'histoire, etc. T'as envie de retrouver ton univers et de retrouver les qualités de ton univers.
Bah, c'est ça réduit en fait la question de savoir Darksiders 3, est-ce qu'il ne va pas plaire finalement qu'à ceux qui étaient vraiment fans des deux
peut-être,
premiers épisodes,
exactement.
Mais qui va pas permettre d'amener de nouveaux.
Malheureusement,
nouveaux
peut-être. Parce que pour continuer sur le lore, t'as des personnages qui sont stylés. Fury, l'héroïne de cet épisode-là.
Mais d'ailleurs, il
n'y
a plus Madureira. Du coup,
non.
Et donc, c'est un.
Mais le design, c'est pas grave.
Le design est réussi quand même.
Ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé plutôt réussi, malgré les graphismes vieillots, bien entendu.
Mais fait des trucs trop cool avec ses cheveux. Et
ouais,
passe
ouais.
En flamme. C'est
un coup ils sont
ça.
En feu, un coup ils sont électriques, un coup ils sont violets. Enfin voilà, c'est assez stylé. En fait,
elle
c'est
a
selon
l'air
le pouvoir que tu vas pouvoir. Ouais, ouais. Bah, ça, attends le gameplay, je vais en parler un petit peu après. Non. En termes d'univers, c'est vraiment cool parce que Fury, c'est une forte tête, c'est une femme forte. Elle a son caractère, elle a sa personnalité et cette personnalité. Elle va évoluer en cours de route et c'est super stylé de voir ce personnage là évoluer devant nos yeux, ses attentes, ses doutes, ses craintes, etc. Et puis comment est-ce qu'elle va arriver à s'en sortir. Et à côté de ça, on a les 7 péchés capitaux, donc une traque en mode chevalier d'or, des chevaliers zodiaques. On va devoir aller casser la tête à 7 péchés capitaux, chacun leur tour, donc personnifiés. Et ces personnages là aussi c'est cool.
Et alors la luxure, ça donne quoi?
La luxure, alors attends, la luxure là, c'est le boss de fin lui. Enfin,
ah.
C'est un des. Il est dur, la luxure. Et
évidemment, il faut le mettre à la fin, la luxure. Normal.
Voilà, voilà. Non, mais le design de ces méchants est assez stylé. Et puis, ils ont tous leurs petites particularités. Tu en prends un, genre, par exemple, la paresse, c'est rigolo parce que, genre, il a la flemme de se battre, quoi, tout simplement. Donc, au début,
non,
il.
En fait, il met juste une claque,
au
c'est
début,
terminé.
C'est un gros. Comment on appelle ça?
Un bibindum.
Ouais, c'est un gros bibindum géant qui est sur son trône. Et en fait, c'est des petits crabes qui portent son trône et tout. Donc, il faut d'abord péter les crabes avant de pouvoir aller péter le boss. Et ce boss-là, du coup, moi, je l'ai trouvé vachement plus facile que les autres. Bah, parce que, bon.
Parce qu'il est fait marrant.
Ouais, il a pas
il
trop
a pas
envie
trop
de se battre, quoi.
Mais ils ont tous des styles différents. Parce
ouais,
que,
ils ont tous des styles assez différents.
La paresse, c'était un genre d'insecte,
attends.
Là. Le gros vert.
Ouais,
que tu,
c'est ça.
C'est un gros insecte.
Ouais,
et
ouais.
Les autres, ils sont aussi comme
alors,
ça.
T'as du monstrueux et t'as de l'humanoïde.
D'accord.
Deux, voilà.
Okay.
T'en prends un genre la vanité, je crois,
ouais.
C'est ça qu'on dit. Hein.
La vanité.
Voilà, ouais. Voilà. Bah, lui, ça va être un humain. T'en as d'autres, c'est des gros monstres.
D'accord,
enfin, voilà,
okay.
Ça dépend.
Donc ça
dépend, ça dépend.
Okay.
Mais ils sont tous plus ou moins bien stylés à leur façon. Voilà, ils sont tous assez charismatiques. Ça, c'est assez
les
cool.
Images qu'on voyait défiler là pendant que tu parlais, c'est vrai qu'on voit que c'est pas un triple A. Hein. C'est évident. Mais par contre, c'est pas si moche.
Non, c'est pas si moche parce que
le design plutôt réussi.
Parce que le design est réussi. Voilà,
mais c'est toujours vide comme ça ou il y a des, quand même des
et
environnements.
Ouais, bah alors,
non, mais ce que je le dis parce que j'ai fait la preview. Moi,
je peux en parler un petit peu du level design. Donc, je voulais parler du gameplay avant. En fait.
Allez, vas-y.
Le gameplay, bon bah qui est vieillot, hein, forcément. Voilà, que ce soit les phases plateforme ou genre le double saut, il est ridicule.
Ça a pas été modernisé en fait, c'est ce que
non,
tu dis.
Non, pas vraiment. Voilà, c'est vraiment.
Ouais,
on aurait joué à ça il y a 6-7 ans sur la précédente génération, on n'aurait rien trouvé à redire. Mais depuis, on a joué à des trucs tellement différents et tellement mieux gaulés que bah là, fou, ça pique un peu. Donc que ce soit sur la baston, bon ça marche, hein, ça fonctionne, hein, mais c'est pas transcendant, voilà. Et donc l'autre aspect qui m'a un petit peu déçu en termes de jouabilité, bah, c'est l'exploration et le level design. C'est-à-dire que on abandonne le découpage à l'ancienne en donjon à la Zelda. Il y a plus ça. Là maintenant, ça va être un gros monde ouvert. Alors c'est comme ça qu'on nous présente le truc, un monde ouvert donjon. Donc un gros donjon global.
Mais façon Dark Souls alors un peu.
Moi j'ai pas trop retrouvé l'esprit de Dark Souls là-dedans.
Mais c'est l'idée du truc.
Enfin, ouais, c'est un peu l'idée du truc.
C'est un peu l'idée quoi.
Ouais, ouais. Alors déjà, donc toi tu parlais du design des zones. C'est clair que sorti des éléments un peu angéliques ou démoniaques, Darksiders ou Fallout, c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est du métro désaffecté, c'est de la rue en ruine. Enfin, c'est pas ultra original pour tout
c'est
ce qui est de la partie apocalypse. C'est assez générique, voilà, exactement. Mais on peut quand même avoir quelques petits trucs assez stylés. Genre un espèce d'arbre planté au milieu de la zone qui pousse entre ça c'est très très beau planté au milieu de la zone qui pousse entre les immeubles ou encore une espèce de temple qui a oh oui mais ah, pourtant, une espèce c'est pourtant temple masculin
voilà
tu vois
bien fait.
J'ai mal fait selon mes règles donc un espèce de temple aquatique voilà il y a quelques je l'ai
un podcast dédié je pense.
Podcast
vas-y,
de
j'arrête
grammaire.
De te concentrer parce que je sais que tu vas pas y arriver.
Donc, sur le principe, c'est cool. Ça partait d'une bonne intention, mais moi, j'ai pas trouvé ça extrêmement transcendant. C'est-à-dire que le monde, il est. Bah, en fait, en vrai, qu'est-ce que c'est ? C'est des successions de couloirs et de grandes pièces. Et dans ces grandes pièces, là, on va avoir des énigmes, mais qui sont des petites énigmes en fait, au final. C'est-à-dire que, genre, t'arrives dans la grande pièce, t'as la porte devant toi, elle est fermée, faut trouver trois épées, bah, il va falloir te balader dans la grande pièce, explorer des chemins détournés, etc., pour récolter les trois épées, aller les mettre chacune à leur emplacement, et ensuite passer au couloir suivant, puis ensuite à la
ouais,
grosse prochaine zone.
Old.
Ouais, et c'est... puis, on perd aussi un espèce d'aspect qui est bien dans les Zelda-like, c'est que tu vas pouvoir te retrouver avec des énigmes globales de niveau. Dans le test, j'évoque par exemple le temple de l'eau dans Ocarina of Time qui est une horreur qui te fait t'arracher les cheveux puisque chaque pièce va avoir une influence sur une autre qui aura une influence enfin, bon bref c'est des réactions en cascade ça tu retrouveras malheureusement pas trop ça ici dans Darksiders et les énigmes du coup elles sont assez basiques plutôt simples et elles sont là où elles sont rendues difficiles malheureusement c'est je parlais du level design qui est pas super bien foutu des fois il faut chercher son chemin en fait tu trouves pas le petit trou qui était trouvé dans le mur par lequel où il fallait que tu passes parce que en plus ta flèche de quête voilà quand t'arrives dans la zone de ton objectif elle commence à devenir complètement folle à plus trop savoir par où tu dois passer enfin bon donc
c'est des mécaniques du coup qui marchent pas très bien avec le principe du monde ouvert finalement
ils
ont gardé un aspect un peu vieillot ils ont ouvert la dimension du level design mais ils ont pas adapté après les énigmes
et donc si t'es libre d'explorer et c'est là en explorant que tu vas pouvoir trouver des petits secrets alors il y a quelques missions annexes
on a
genre des citoyens à sauver ce genre de choses donc si tu peux explorer librement si tu veux le jeu mais aussi on te propose donc déjà t'as pas de carte donc pour te retrouver dans un monde ouvert
sans carte.
Ouais. Bah, tu vas me dire t'as pas de carte dans Dark Souls
mais
non
ça
plus
fait un
hein.
Radar façon
ouais,
assassin
voilà.
En fait.
Et là en fait t'as un radar voilà exactement une boussole nord sud est ouest avec un marqueur de quête et en fait ce que tu fais la plupart du temps malheureusement c'est que tu suis un peu ton marqueur de quête sans trop calculer en mode allez c'est bon je me prends pas la tête et du coup ça te pousse pas à découvrir de toi-même les niveaux Donc ça te pousse pas à l'exploration, ça te pousse plutôt à le faire de façon assez linéaire. Et malheureusement, si tu y joues comme ça, bah au final, l'architecture des lieux, bah, tu la calcules absolument pas. Tu sais absolument pas quel niveau est relié avec quel autre, etc. Pourtant, par exemple, le hub central, j'y suis passé, bah, je ne sais pas combien de fois, parce que tu repasses pas mal aussi de fois par les mêmes endroits. Comment y articuler ce monde, j'en ai aucune idée, alors que pourtant je te connais à Lordran dans ses moindres recoins, de la cave jusqu'au grenier. Là, ici, j'ai pas eu l'impression une vraie impression de liberté. Voilà. J'ai plutôt eu l'impression d'avancer dans un jeu super linéaire. Ce qui dommage. Est un peu dommage. Voilà.
Bon, ça fait beaucoup de petits défauts quand même. Hein, tout
ouais,
ça,
ouais. Ouais. Ça en fait pas mal, ça en fait pas mal. Voilà, voilà. Donc.
À conseiller uniquement aux fans, ceux qui ont apprécié voilà. Vraiment Darksiders 1 et 2.
Si vous étiez dans le coma, vous venez de vous réveiller.
Ouais, voilà,
vous étiez allez-y. Dans Darksiders, c'est pour vous.
Vous n'avez pas joué à tous les jeux qui sont sortis depuis.
Ah, rigolez pas, allez-y. Il y en a sans doute. Hein.
Ouais.
Non, mais du coup, personne va accrocher à la série avec celui-là. Quoi.
Ah non, ah, non c'est compliqué d'accrocher avec celui-là.
Bah, alors, faut se faire un trip rétro. Hein. Ouais, il faut rejouer aux anciens et puis enchaîner
donc, bon,
avec
pour conclure,
un nouveau qui est ancien.
Le jeu, on imagine bien qu'en fait, en vrai, il avait été développé. Par Vigil Games à la base,
bien sûr, il avait
qu'ils
commencé.
Ont récupéré des assets de cette époque, que le jeu devait être pas mal avancé, je pense, et que du coup c'est pour ça qu'on a un jeu qui est en termes de gameplay,
certainement,
en termes de graphisme daté. Après,
ils
bon,
voulaient pas tout refaire, quoi.
Le level
trop
design, ça c'est. Ils auraient pu faire le même jeu aujourd'hui, hein. Ça aurait pas marché pareil, je pense.
Faut espérer qu'ils se tirent pas une balle dans le pied pour l'épisode 4, quoi.
Alors, le 4, il faut qu'ils nous fassent un vrai triple A, quoi. Voilà, tout simplement.
Faudrait que celui-là se vende.
Mais c'est mal barré.
Déjà.
Je sais pas. Hein. Je sais pas.
Il aura peut-être pas un
bon, les gars,
bon
le 3 a vidé, mais on
surtout
va mettre tout notre pognon dans le 4 et on va espérer que ce
que
sera une tuerie.
C'est pas du tout du triple A.
On vide le compte en banque, on met tout là-dessus.
C'est pas du triple A, comme on l'a dit. Pourtant, le prix de lancement est extrêmement proche de celui d'un triple A. Alors, selon les enseignes, faut faire gaffe. En cherchant un peu, on peut le trouver moins cher et un tarif qui, pour le coup, est raisonnable par rapport à ce qu'il propose vraiment.
Bon, tu sais que Fallout 76 est déjà bradé cette semaine.
Ouais,
donc,
ouais.
Laissez-lui 2-3 jours et puis.
Mais les jeux précédents étaient déjà un peu des outsiders. Hein. C'est-à-dire que c'était des bonnes surprises, mais c'était pas des jeux qui étaient achetés.
Pourtant, ils sont quand même. Voilà. Je veux dire, il y a des gens qui vont pouvoir te dire que ça fait partie de leur top.
Non, non, non,
oui,
ils parlaient
de vente.
Je te dis juste en succès populaire.
Ils ont eu un bon bouche à oreille, les premiers Darksiders.
Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'y suis mis sur le tard. Hein. J'ai pas acheté ça quand c'est sorti. Hein. Je l'ai topé à 15-20 balles en promo. Sans trop savoir ce que c'était. Ça met une bonne tarte quand même à l'époque. Là, donc clairement, ça aura pas cet effet-là sur les joueurs qui découvriront la série avec. Et vraiment, pour le prochain, en plus, donc ça va être encore. Le jeu devrait encore innover, puisque donc on va avoir un quatrième cavalier qui lui se sert pas mal de flingues dans le lore. Donc.
Ça pourrait devenir un TPS
en fait pour le quatrième épisode. Donc s'ils repartent sur une formule à la Zelda. En mode TPS, ça pourrait être sympa. Voilà. Non mais ouais, il va falloir qu'ils revoient un peu leur copie pour le quatrième s'ils veulent pouvoir accrocher du monde au wagon, parce
c'est
que c'est pas avec cet épisode-là
pour
qu'ils
Dark
le feront.
Darksiders aussi, voilà.
Bah on espère pas et on espère voir ce quatrième épisode, clairement.
Ok.
Donny Jeep trouve cette thèse d'un Darksiders 4 en triple A. Fort improbable. Voilà. Voilà,
c'est l'art de manier l'euphémisme.
Voilà. Fort improbable, effectivement. C'est tout pour Darksiders 3.
Je pense avoir fait le tour.
Eh bien, on va passer à la suite, mes petits amis. Et on approche de la fin. On va fêter, comme chaque semaine, un anniversaire. Chaque semaine, on regarde un petit peu tout ce qui fête son anniversaire. On essaie de trouver des chiffres un peu ronds. 10, 15, 20. Voilà, tous les 5, on va dire. Et on a trouvé un titre que j'aime beaucoup, personnellement. Je crois qu'on aime tous beaucoup. Et tu vas nous en dire plus, Thomas. Il s'agit d'un jeu Ubisoft.
Tout à fait, et ça n'étonnera personne de savoir que tu l'aimes beaucoup, mon cher Julot, puisqu'il s'agit de Prince of Persia, Les Sables du Temps, qui est donc sorti il y a 15 ans, hein. On a voulu un chiffre rond, c'était le 21 novembre 2003, si je ne dis pas de bêtises, du coup, et première aventure du Prince de Perse depuis très longtemps, puisqu'en fait, ça n'est que le quatrième épisode de la série, en soi, récupéré par Ubisoft, mais qui changeait complètement
d'ambiance. Allez voir Prince of Persia, les premiers jeux avant Les Sables du Temps, hein. C'est-à-dire, c'était en 2D, vu de profil, il fallait faire des sauts millimètres un peu comme dans Tomb Raider.
C'était un jeu extraordinaire.
Ah oui, bien sûr.
Extraordinaire.
Jordan McNair.
Extraordinaire.
Mais à s'arracher les cheveux aussi, par moments.
Ce qui est vraiment totalement improbable, c'est qu'ils ont réussi un passage 3D à l'époque, qui était juste merveilleux, avec des tonnes d'idées, et en transformant une formule, en gardant vraiment tout ce qui faisait de cette formule, tout l'ADN en fait, hein, des premiers Prince of Persia, et en arrivant à les transformer en 3D de manière magistrale, je trouve.
Avec quelques mécaniques intéressantes, hein. C'est Ubisoft en fait qui avait récupéré la licence, je crois, en 2001, et qui a décidé en fait de vraiment étudier ce qui se faisait dans le jeu d'action. J'ai retrouvé quelques infos où les développeurs disaient qu'ils s'étaient inspirés de Shinobi, Onimusha, Devil May Cry, Tomb Raider, Ninja Gaiden, pour essayer de faire quelque chose vraiment orienté action, mais en gardant ce côté plateforme qu'on appréciait vraiment dans Prince of Persia. Et là, du coup, la nouvelle mécanique, c'est les sables du temps, qui donne son nom à cet épisode, qui te permettait justement de remonter un petit peu le temps, puisque l'une des autres particularités de Prince of Persia, là dans celui-ci, c'était que le prince lui-même te racontait son aventure. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, quand tu te plantais, il disait « Ah non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. » Et hop, tu rembobinais un petit peu l'action. Et puis si t'avais foiré ton
super
saut
idée, déjà,
qui était exigeant, et c'est pas grave, tu recourais le long d'un mur, tu sautais, et tu réussissais ta séquence, et ça te permettait d'avancer.
Et n'oublions pas également toutes ces capacités de parcours qui paraissent un peu normales aujourd'hui, mais ça doit être un précurseur, parce que je me rappelle notamment de la possibilité de me courir sur les murs, de t'accrocher ensuite à je sais pas une espèce de barre qui traînait là, rebondir, marcher sur un autre mur, courir sur une plateforme qui s'effondre. Enfin, il y avait un truc vraiment génial dans
c'était un peu Assassin's Creed avant l'heure.
Bah tout à fait, voilà. Bien sûr, parce que tu sais que le développement d'Assassin's Creed quelques années plus tard a commencé comme une espèce de spin-off de Prince of Persia, ou même un nouvel épisode de Prince of Persia.
Et ils ont le même directeur créatif d'ailleurs,
bien sûr, Patrice Désilets.
Exactement,
c'était un super jeu d'action 3D, je suis tout à fait d'accord. Mais là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que moi je trouve pas justement que ça soit vraiment un successeur au jeu d'origine, parce que je trouve qu'il s'en écarte énormément. Tu le disais justement, et qu'il s'inspirait de jeux d'action, et je trouve que c'est un jeu très différent en fait de l'original. C'est aussi parce que j'ai un peu une théorie là-dessus, c'est que pour moi le Prince of Persia original, s'il y a un jeu qui lui ressemble le plus, ou une série de jeux qui lui ressemble le plus aujourd'hui, ça va vous surprendre, mais c'est la série des Souls en fait. Parce que déjà pour sa difficulté, qui parfois...
Et quand tu devais faire un combat à l'épée, c'était hyper chaud.
C'était hyper chaud. Et surtout, le fait que, comme dans les Souls, c'est, comment on dit, on peut pas y échapper, quoi. C'est-à-dire que si on peut pas le savoir, certains pièges et tout, on est bloqué.
Mais là, ce que tu oublies, c'est le côté athlétique du héros. Et quand tu jouais à Prince of Persia à l'époque, il fallait vraiment voir ses sauts au millimètre, et surtout tu avais des animations qui étaient merveilleuses d'ailleurs à l'époque.
Rotoscopie.
Et voilà. Ouais. Et il fallait compter presque les pas.
Ouais, bien sûr.
Il fallait mourir contre des pics plusieurs fois, effectivement. Alors, ça, c'est un côté Dark Souls. Mais le côté parcours, je trouve que ça, c'est juste merveilleux à quel point ils ont réussi à retrouver l'essence de Prince of Persia en changeant le jeu et en osant innover. Parce que tu vois, justement, je trouve que les jeux qui essayent trop de se rapprocher de ce qui a été fait avant, et souvent ils sont freinés dans dans leurs intentions. Et là, il y a eu, je sais pas moi, quand je vois ce jeu, j'ai l'impression d'une espèce de liberté créative en même temps qu'un respect profond pour l'œuvre originelle. Et ça donne ça vraiment, parce que tu vois, on a vu des vidéos qui passaient tout à l'heure où il courait le prince sur un pont et le pont s'écroulait et il faisait volte-face, il repartait dans l'autre côté, mais tu sais, avec une animation où il glisse au sol, etc. Ouais. Ça, c'est totalement du Prince of Persia. Et c'est là que je trouve que vraiment, dans l'ambiance visuelle, en changeant plein de choses et tout, et dans le gameplay, en changeant plein de choses aussi, moi, je retrouvais vraiment l'essence, quoi.
Ah ouais.
Pour toutes ces raisons-là. Et c'est vrai, le côté Souls, t'as raison, les combats à l'épée, et puis les morts à outrance contre les pics.
Et puis il y a aussi le fait que le palais de Prince of Persia, c'est un univers clos, qui s'ouvre, qu'on repasse par Etouzai. Il y a ça aussi dans les Souls. Mais
et t'avais pas du temps justement pour le terminer, Prince
bien sûr,
of Persia. Parce que tu disais que t'aimais pas les jeux avec un chrono en parlant de
genre. Il était jeune.
Je
l'avoue bien volontiers, je regardais jouer à Prince of Persia et j'y jouais pas moi-même.
Tu parlais des combats, il y avait aussi une particularité dans cet épisode, c'est qu'il fallait que tu absorbes tes ennemis une fois à terre, parce que sinon ils revenaient à cause justement des sables du temps, donc il fallait que tu passes aussi un peu de temps à détruire
ce jeu absolument génial
tes adversaires. Et
avec
le double
maléfique du prince, tu te rappelles le truc avec le miroir dans le premier du premier Prince of Persia, mais bon, c'est un jeu qui m'a marqué.
moi j'y ai joué à l'époque sur Super Famicom, quand j'ai dit Super Famicom, donc en japonais.
Parce magnifique que jaquette.
J'avais lu le test import dans le joypad à l'époque. Test import, parce qu'évidemment Prince of Persia est sorti d'abord au Japon. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais donc je me suis payé cette cartouche à 600 balles ou 700 balles.
Tu t'es arraché des cheveux, non?
Ouais, j'ai tellement kiffé.
Ah ouais. C'était une magnifique version.
C'était une version, mais vraiment magnifique de Prince of Persia. Vraiment.
Et tu parlais de Joypad, justement. On a retrouvé le test de l'époque et il avait été très très bien accueilli puisque c'était Karine qui l'avait testé. Et qui avait mis 9.
C'est la maquette des années 2000, hein. On le voit avec les couleurs et tout.
Et là, si tu montres bien, le Joypad Megastar.
Exactement.
Les indispensables à l'époque étaient marqués du sceau du Joypad Megastar.
Il avait été très bien accueilli et puis le public aussi lui a réservé un bon accueil puisque. Comme justement ta série de cœur, mon cher Julo, Assassin's Creed, Ubisoft aura déroulé après année de nouveaux épisodes de Prince of Persia, puisque là on est en novembre 2003, Les Sables du Temps. Un an plus tard, on a eu L'Âme du Guerrier en décembre 2004 et Les Deux Royaumes en décembre 2005. Donc voilà, Ubisoft avait trouvé la bonne formule.
Et Assassin's Creed en 2007, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Voilà. En même temps que la PlayStation.
La PS3,
il y a eu deux Prince of Persia hein, quand même sur la génération suivante.
Oui.
360
oui.
et PS3
en 2010.
Et dont un que j'ai beaucoup aimé, dont je me rappelle plus le nom, celui qui était en cel shading et qui a proposé la fin du jeu
fin
en DLC.
DLC.
Vous vous souvenez de ça ?
Moi j'avais fait celui-là, je l'avais beaucoup aimé.
J'ai adoré aussi.
J'avais fait celui d'après aussi, mais qui du coup m'avait bien fait rager parce que pourquoi ? Eh bien, on avait malheureusement des bons bugs bloquants des familles.
Eh oui.
Voilà.
En tout cas,
je collais avec les pieds le.
Ça fait plaisir de revoir la maquette de Joypad. Superbe maquette de l'époque.
Avec Karine qui commence son chapeau avec une citation de Lamartine quand même à l'époque à Joypad. Ouais, ce qui est juste un peu triste, c'est que finalement Prince of Persia il s'est fait un peu avaler par Assassin quoi, d'une certaine manière.
Mais je pense qu'on sera très heureux de le retrouver un de ces quatre. Tu vois, s'ils se remettent un peu sur cette licence. On peut faire des trucs géniaux.
Là, mais il faudra pas qu'elle fasse doublon, justement.
Mais ça fera pas du tout doublon, vu le chemin qu'a pris Assassin's Creed maintenant. Moi, je trouve que le chemin qu'a pris Assassin's Creed est quand même très très différent des Sables du Temps. J'ai pas du tout l'impression que c'est le même jeu, c'est complètement différent.
Bon, écoute, voilà, Yves, si tu nous écoutes, hein, on attend après toi, c'est parti. Voilà. Donc,
Moi, je reverrai bien un truc de parcours. Tu vois, par exemple, moi j'ai adoré Mirror's Edge.
Évidemment.
Mirror's Edge, que j'ai trouvé extraordinaire, à part pour son scénario qui était absolument foireux au possible, mais je veux dire les sensations que procurait ce jeu étaient voilà des sensations proches de ce qu'on pouvait ressentir en jouant à Prince of Persia justement tu vois de parcours il y a des trucs géniaux à faire avec le parcours en fait donc bon moi je pense que cette série peut revenir et ce serait un grand plaisir. Alors juste une petite chose à noter, il y avait Donny Jeep qui parlait de l'OST de la musique hein, de Prince of Persia par Stuart Chatwood, un classique, dit-il. Et c'est vrai que je me souviens d'une très bonne ambiance sonore aussi dans Prince of Persia. Voilà.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Les Sables du Temps.
Les anniversaires.
On passe à la suite. Alors, figurez-vous que cette semaine, on a un hors-jeu. Grâce à toi, Johnny Wan.
Oh,
tu voulais nous présenter un petit peu. Voilà. On essaye de le faire chaque semaine.
Ouais.
C'est, comme on passe notre temps à jouer, c'est assez difficile de trouver des trucs hors jeu.
Non, puis les podcasts, des fois, durent 2h30.
Voilà.
Donc,
parfois, on le zappe aussi. Mais là, on va parler d'un manga.
Un manga.
Mon cher Johnny Wan, qui t'a marqué.
Ouais.
Et parce que ça s'est terminé cette année en
France. Ça s'est terminé cette année, en effet. Donc, bon, on en parle un petit peu en retard, nous. Hein. Mais c'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'est un truc qui a duré presque 20 ans.
Alors, comment ça s'appelle
Ça s'appelle MPD Psycho.
Ah, je croyais que t'allais nous dire ça s'appelle Naruto. C'est super. C'est un ninja. Il est à Konoha.
Un gars qui vient de commencer à
Nishimoto.
Il est habillé en orange.
Donc MPD voilà. Psycho.
MPD Psycho, voilà. Mais donc c'est un manga de Eiji Otsuka. Qu'on connaît aussi sur une autre série, peut-être si vous êtes fan de manga, etc. Alors, ah tiens, attends, je mets un gros warning là, parce que Poufy en plus il est en train de montrer des images dégueulasses à l'écran. Donc, si vous avez des enfants à côté de vous, bah fallait les cacher il y a 10 secondes. Voilà, c'est trop tard maintenant.
Ah oui, c'est un peu gore.
Ouais, non,
et maintenant
c'est super
ils sont traumatisés
gore,
à vie.
C'est super gore.
Merci, Johnny.
Donc, MPD Psycho, un manga d'Eiji Otsuka qu'on connaît aussi pour Kurosagi, livraison de cadavres. Alors, le dessinateur il est un peu moins connu, Shoyu Tajima. Moi, je. Pas lu d'autres mangas qu'il avait dessiné. Mais en tout cas, le scénariste, lui, j'ai lu plusieurs séries dont il a l'origine. Et MPD Psycho, c'est celle qui m'a le plus marqué.
Ah, qu'est-ce que
donc,
ça raconte?
Ça raconte. Attends, je fais encore un petit peu d'historique.
Hein. Ah, vas-y, pardon.
Ah, oui. Donc, c'est sorti au Japon en 97. Tu vois.
Ah.
Bon, en France, ça arrivait un peu plus tard. Hein, ça a presque mis 10 ans avant d'arriver. Ça a commencé à sortir en 2004. Mais quand même, 2004, la série, elle fait 24 tomes. Et on a vu le dernier cette année, en 2018. Donc, il y a eu un rythme de parution en France qui était assez effréné au départ. Puisque forcément, on avait une dizaine de tomes de retard.
À rattraper, ouais.
Voilà, exactement. Et ensuite, ce que cette série, elle a de très particulier, c'est que ce rythme-là, il s'est ralenti à mort. Et qu'à un moment, il fallait attendre un an et demi, deux ans avant de voir.
voir
un nouveau tome,
un nouveau volume.
Bon, les fans de Togashi ont l'habitude. Hein.
Ouais, mais bon, c'était, enfin, voilà, ça a vraiment duré très longtemps.
Super Berserk.
Ouais.
On n'en parle pas.
Et il y a eu quand même eu une accélération à la fin où les 4 derniers tomes, les 4-5 derniers tomes, on les a eu en 2 ans. Voilà. Donc le scénariste et le dessinateur.
Ils en avaient marre, ils voulaient passer à autre chose.
Ouais, ils en avaient marre, ils voulaient passer à autre chose.
Vas-y, Bob, on termine.
Ils sont allés finir leur histoire. Alors pour le coup, c'est pas une fin bâclée. Je tiens à le dire. Voilà. Non, ils sont vraiment allés au bout de leur histoire et c'est bien du début à la fin. Et alors, de quoi ça parle ce petit MPD Psycho?
Et pourquoi d'un coup tu parles comme ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, très chaud. Alors, ça parle en fait, c'est une histoire de meurtre en série au départ où on va avoir des images bien gore. Et 2004, quand ça débarque, ou même 97, il y avait un film qui avait beaucoup marqué les esprits à cette époque-là, c'était Seven. Et donc, MPD Psycho, qu'est-ce qu'il fait? Il surfe un peu sur cette vague-là en proposant des meurtres ultra gore. Là, on voit des gens en train de se couper la carotide. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme image là? Qu'est-ce que tu peux nous
des
montrer?
Des pluies de sang, il y avait un type qui avait l'œil complètement crevé.
Voilà,
juste avant.
Un type. Alors là, on voit. Donc un tueur qui s'amuse à faire pousser des fleurs dans le cerveau de ses victimes.
Ah ouais, c'est bien tordu ça.
On en a vu un autre là qui avait mis une nana coupée en petits morceaux dans une glacière. Enfin voilà, mais encore
attends,
vivante.
Je sais que t'es en kiff là, mais
attention.
Je me permets d'intervenir parce que il y a plein de meurtres, mais on suit qui un policier.
Alors ouais, justement. Donc là, je te parle de l'ambiance et tout.
Oui, t'es dans tes fantasmes, tes délires.
Je sais pas.
Je veux pas t'arrêter en plein plaisir.
Je pensais que t'allais faire une Ségolène Royal. Je sais que tu te fais plaisir, mais c'est pas un peu violent quand même ton truc.
Donc y a un.
Est-ce que nos enfants ils vont pas péter un câble après ça? Non, franchement.
Peut-être oui, je ne sais pas.
Allez, tiens,
bon, il faut être sain d'esprit pour lire ces trucs-là. Donc donc t'as un style graphique déjà qui est super au niveau du dessin ou même en termes de design, etc. C'est super inventif dans les meurtres, les etc. Tous les trucs comme ça. Et donc un autre point très très fort de ce manga, c'est son histoire justement.
Ah ça y est, pour faire démarrer Johnny Watt, c'est un putain de diesel quand même. Hein. C'est des fois il démarre pas, faut tirer sur le petit machin là pour le diesel, tu vois, le turbo là.
Donc ça parle en fait d'un enquêteur de la police qui retrouve le meurtre qu'on a vu tout à l'heure, la fille dans la glacière, qui reçoit un jour au commissariat sa copine dans une glacière. Il devient complètement
c'est le commissaire
fou.
Qui reçoit sa copine.
Donc
c'est Seven, fond la caisse.
Donc okay. Donc le manga commence comme ça, hein, voilà.
Tu sais, DBZ c'était Terminator, il y a l'arc Trunks et tout. Il s'inspire souvent. On s'inspire
Et donc le mec pète un boulard, il poursuit le meurtrier jusque sur un toit, le meurtrier qui est complètement fou, hein, qui se laisse limite avoir, et il le tue. Voilà, donc ça commence comme ça. Donc le héros, qu'est-ce qu'il fait? Il va en prison. Sauf que la personnalité du héros, celle qu'on a connue dans le premier chapitre, elle disparaît. Et en fait, il y a MPD, Multiple Personality Disorder. Donc en fait, notre enquêteur, celui qu'on va suivre dans la série, il a de multiples personnalités en lui. Donc au début,
attends, comment pas, c'est celui qui est en prison?
Ouais.
Oui, qui vient de tuer l'assassin
Donc en fait, au moment où il bute l'assassin de sa femme, cette gentille personnalité qui était une façade, elle s'évapore et elle laisse place à d'autres personnalités. Donc là-dedans, t'en as des gentilles, t'en as des méchantes.
Mais là, il est en tôle.
Là, au début, il est en tôle, mais il en sort très vite. Le manga fait une ellipse et recommence quelques années après, dès le premier tome. Et donc là, il sort de tôle, mais c'est une autre personne, en fait. C'est quelqu'un d'autre dedans. Voilà. Et il a d'autres...
À chaque tome, chaque chapitre, genre des
pas
fois,
à chaque
on
tome,
sait
chaque
pas
chapitre.
Qui il est.
Ouais, on sait pas vraiment trop qui il est, etc. Même si bon, ça on arrive quand même plus ou moins à suivre. Mais là où ça devient très très fort, c'est que ces personnalités-là, elles peuvent...
Interagir entre elles?
Pas interagir, mais ouais, elles sont toutes plus ou moins liées. Et je peux pas trop en dire sans spoiler.
Ça
mais
me rappelle un peu Split, le film de Shyamalan, enfin le réalisateur du Sixième Sens et de Incassable, où t'as cet acteur là qui joue le professeur Xavier.
Ne regarde pas quand tu cherches ça.
Comédien qui est excellent en plus. Je l'associe qu'au professeur Xavier, c'est lamentable, mais et où il joue un tueur en série qui a de multiples personnalités et qui interagissent entre elles d'ailleurs.
Et là où c'est très fort dans ce manga, c'est bon, je spoil pas plus que ça, c'est pas vraiment, enfin, c'en est un petit mec qui
non,
est
mais
très
t'as
vague.
Donné des éléments qui donnent envie,
c'est qu'en fait l'important c'est pas les enveloppes physiques de nos héros, c'est vraiment les personnalités qu'on va suivre, etc. Et du coup ça donne lieu à des twists
parce qu'il y a plusieurs
énormes.
Personnages du coup qui sont MPD
ouais, il y en a, en fait, ils sont presque tous fous, hein, ils ont presque tous des multiples personnalités dans ce manga, mais
ça devient tous des
Saiyajin,
en fait.
Mais on va en suivre certaines, elles existent même en double et tout, enfin, c'est vraiment assez stylé dans la gestion de ça, dans la gestion de ces héros qui s'affranchissent un peu de cette enveloppe physique, puisque c'est vraiment leur esprit qui est important et ce qui se passe dedans. Mmh. Et ça donne lieu à des twists assez monumentaux. T'as notamment, ouais, on peut parler d'arc, je pense. Les 10 premiers tomes du manga ont une tranche noire, le 11e est rouge, parce que bah, il se passe un truc, voilà, retournement de situation. Tout ce que tu croyais depuis le début, en fait, c'était faux, on t'a menti, et en fait, c'est ça la vérité. Et tu as le même genre de twist qui se reproduit encore un petit peu après. Voilà. En termes de suspense et de scénario, etc., c'est vraiment super, super, super
c'est
bien foutu.
24 tomes, tu disais
24
donc
tomes.
Donc terminé, là, la série,
ça,
on
là,
peut l'acheter complète.
Tu peux l'acheter complète.
C'est toujours un argument, ça.
Bah, c'est vrai.
Bon, alors, à mon avis, les premiers tomes, tu risques peut-être de douiller. Je sais pas combien ça cote. Je me suis pas renseigné sur savoir si c'était rare ou pas. Moi, j'ai acheté les premières éditions à chaque fois. Voilà. Parce que c'est une série que j'ai suivie depuis le début. Alors, c'est des très belles éditions, notamment. Ce sont des mangas au format...
C'est chez quel éditeur ?
Alors c'est chez Pika, si je dis pas de bêtises. C'est des mangas au format un peu plus grand que les Dragon Ball, donc c'est du 15x21, je crois. Je dis peut-être des bêtises hein, sur le format. Mais c'est du manga format intermédiaire, très fin. Très très fin, les tomes sont très fins, alors qu'ils font 180 pages, et ils sont imprimés sur un magnifique papier glacé de très bonne qualité. Donc ça c'est pour l'édition française. Et au début de chaque tome, on a même une feuille filigrane, calque qui est imprimé et qui ne te laisse qu'une petite partie, découvrir une petite partie de l'image que après tu tournes ta page et tu découvres l'image en entier. Donc c'est vraiment des très beaux formats. Ils ont essayé de commencer une édition intégrale grand format, mais ça n'a pas fonctionné, j'ai l'impression, parce que je n'ai vu qu'un seul tome passer en librairie. Ouais. Voilà.
Ok, et il y a une adaptation en anime.
Il y a, alors c'est pas un anime, je crois que c'est un drama. Il y a 6 épisodes. Moi j'ai pas vu, je pourrais pas en parler, je pourrais pas dire ce que ça vaut. Mais le manga c'est vraiment 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 très très bien
pour un public averti.
MPD
ouais,
Psycho.
Pour public averti, ça c'est
merci
sûr.
Merci Johnny One de nous avoir offert un hors-jeu. Ça faisait longtemps.
Une parenthèse de poésie.
Exactement.
Et de bonne humeur.
Ça fait du bien. Franchement, moi j'ai qu'une envie, c'est.
Moi je l'ai senti heureux quand tu parlais de tous ces crimes.
C'est ça qui m'inquiète en fait. Pour te dire la vérité. J'ai découvert la deuxième personnalité de Johnny One là et je suis un peu en flip là.
Genre, la troisième ou la quatrième.
On part tous ensemble là, vous me laissez pas tout seul avec lui. Voilà ce qui va conclure donc ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi en live et d'avoir envoyé tous vos petits messages. Là, je vois que ça a discuté à fond la caisse. On vous dit évidemment la semaine prochaine. Avant ça, petit rappel tout de même, il y a un concours extraordinaire en ce moment, Gameblog Cross Choco Bon Plan, où on vous propose de gagner des PlayStation classiques. Et le premier prix, c'est de gagner une PlayStation classique avec 20 jeux bien réels, eux, qui sortent de la sélection qu'on aurait aimé avoir dans la PlayStation classique et qui n'y est pas forcément. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gros manques hein, dans la PlayStation classique.
Je peux toujours pas participer.
Pas tu plus peux que la semaine dernière.
Putain, non, tu peux aller dans toutes les boutiques, faire ce qu'a fait Choco Mon Plan, aller acheter les jeux un à un, les trouver ici et là en bon état et faire un superbe pack comme ça à faire gagner dans un concours.
Mais tu pourras pas participer puisque ce sera ton concours aussi. Exactement. La vie est mal faite.
C'est nul. C'est nul.
Mais vous avez jusqu'au 3 décembre, donc profitez-en. Vous
c'est
avez
ça.
Encore une chance de gagner.
Tout à fait. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et à propos de la PlayStation classique, on va faire comme on a fait avec la Super NES et la NES Mini, faire un petit test. Voilà. Donc d'ici la sortie du jeu, de la console, vous aurez un petit test où on vous dira tout ce qu'on a pensé de la PlayStation classique qu'on a pu avoir entre les mains. Voilà ce qui va conclure ce podcast. On vous fait des gros bisous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Poufi à la Sono. Merci à tous les gars d'être venus participer
merci
à ce 476e épisode. On vous fait donc des bisous encore une fois et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut. Bye.